Bonjour à tous, merci d'être là pour la 9e séance du séminaire interdisciplinaire de la chaire d'études méditerranéennes du LabExMed, qui aujourd'hui s'intitule « Mobilité, réseaux transnationaux et acteurs locaux en Méditerranée » et qui aura comme focus le Maroc et également l'Algérie. Pour cette séance, nous accueillons deux intervenants, Thomas Lacroix, qui est géographe au CNRS, ami Grinter, qui travaille sur les relations entre transnationalisme, intégration et développement, et plus spécifiquement sur le transnationalisme maghrébin. Et nous recevons également Sophie Bava, qui est socio-anthropologue à l'IRD, au LPED, le Laboratoire Population Environnement Développement. Et Sophie est actuellement accueillie au LEPO SHS à l'Université internationale de Rabat, et ses recherches portent sur les migrations africaines et les dynamiques religieuses entre l'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique méditerranéenne. Donc comme vous le voyez, donc nos deux intervenants ont des approches quand même différentes, mais qui ont beaucoup de liens, bon, notamment le terrain, mais aussi le fait de lier mobilité à des formes de transnationalisme religieux ou liés au développement, à réfléchir sur la question des réseaux, sur le lien entre réseaux transnationaux et acteurs locaux. Donc c'est sans doute là-dessus que l'on pourra ensuite notamment discuter et échanger. Mais pour l'instant, nous allons commencer par l'intervention de Thomas Lacroix, dont la présentation a pour intitulé « Penser les pratiques de l'entre-deux, le transnationalisme villageois maghrébin ». Thomas, on t'écoute.
Merci Delphine. Alors c'est pour moi un plaisir d'être ici. Alors la dernière fois que je suis venu, c'était il y a un bout de temps, c'était juste après ma thèse, sur invitation de Jean Robert. Où je présentais, donc c'était il y a 12 ans. Alors je commence par là parce que, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est finalement totalement dans la continuité de mes travaux de thèse. À l'époque, j'avais travaillé sur le transnationalisme marocain et plus spécifiquement sur ces associations villageoises reconstituées en France et qui se mobilisent pour monter des projets de développement pour leur village d'origine. En fait, j'avais utilisé cette entrée pour travailler sur une thématique de géographie politique qui est celle de la construction d'une spatialité transnationale. Ah, ça y est, ça se précise. On va voir. Donc voilà, sur cette question de la spatialité transnationale, donc je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, ça fait l'objet d'une publication en presse de Sciences Po en 2005. Dans lequel, évidemment, j'avais mis en place les principaux questionnements de ma problématique de recherche que j'ai suivie par la suite. Alors, ensuite, mon parcours... Ça y est, pardon. Voilà. Et donc, mon parcours, ensuite, je l'ai continué en Angleterre, où j'étais en accueil à titre d'abord de postdoc et ensuite de chercheur associé à l'université d'Oxford, où là j'ai développé mes travaux sur les associations transnationales, le militantisme polonais, indien. C'est une parenthèse qui m'a un peu éloigné de mes terrains maghrébins. Enfin, ceci dit, je ne les ai pas complètement abandonnés parce que j'utilisais les données que j'avais accumulées pendant ma thèse. Et puis j'ai essayé de détourner un peu les fonds qui étaient mis à ma disposition pour essayer d'aller... pour retourner sur mes terrains parisiens et maghrébins. Voilà, c'est des choses qui se font hein, quand il est difficile d'avoir des... On a des doubles casquettes. Voilà. J'ai essayé d'ouvrir mon sujet de thèse par une approche comparative avec, d'une part, les Indiens qui résident, spécifiquement les Punjabis qui résident en Grande-Bretagne et les Kabyles qui sont en France. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi de cette comparaison. En fait, ce qui m'a intéressé dans mon sujet et ce qui m'a vraiment interrogé pendant mes années de thèse, c'est le fait que cette dynamique, ce type de pratique de développement n'était pas spécifique aux Marocains, loin de là, c'est quelque chose qui touche une multitude de groupes de par le monde. C'est observable parmi les Mexicains aux États-Unis, parmi les Sénégalais en Italie, parmi les Gambiens au Portugal. Voilà, j'ai fait tout un listing de ces groupes à partir d'une analyse de la littérature. J'en ai relevé plus d'une trentaine. Ça y est, c'est parce que j'ai un tableau là qui vous le montre. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Et l'autre élément qui m'a frappé, c'est que à peu près tous ces groupes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont des histoires migratoires totalement différentes, se sont mis à faire à peu près la même chose, c'est-à-dire des projets collectifs de développement à peu près en même temps, au tournant des années 90. Alors là, il y a à la fois cette... Ouais, voilà, ça y est. C'est un proverbe wallon, je l'adore. C'est mieux. Non, alors pourquoi ça marche pas, là ? C'est pas la même. Bon, je vais perturber mon auditoire là. Voilà, donc c'était vraiment cette question d'abord de l'universalité du phénomène, enfin université, l'héritée entre guillemets, parce que c'est pas... Voilà, on y arrive. C'est un peu flou, hein. Enfin.
C'est mieux.
Voilà. Est-ce que...
Avec des lunettes.
Non, c'est celui de... Ah, peut-être celui-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez le nombre de groupes que j'ai pu relever en faisant une analyse de la littérature, en essayant d'interroger les plateformes d'ONG, de migrants, etc. C'est quand même assez impressionnant. Donc, cette première question, c'est vraiment celle de l'universalité du phénomène. Et la deuxième question, c'est sa temporalité. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent tous à faire du développement en même temps ? Alors, pour aborder cette question-là, j'ai mis en place un appareillage à la fois méthodologique et théorique qui permettait de répondre à ça. Appareillage méthodologique, c'est celui de la comparaison. Hein. Et là, j'ai construit un appareil qui est assez classique dans les méthodes comparatives, c'est-à-dire on compare les dissemblables et les semblables. On compare les dissemblables pour mettre en évidence les points communs, et on compare les semblables de groupes semblables pour mettre en évidence les différences. Donc c'est ce que j'ai fait en comparant d'une part ce groupe qui m'avait intéressé pendant ma thèse, qui est celui des Chleux marocains du sud du Maroc, et avec les Kabyles algériens, qui ont des... Enfin, il y a beaucoup de différences, hein, mais ce qui m'avait intéressé, c'était en particulier les profils d'intégration qui étaient relativement semblables. Et j'ai comparé avec les Punjabis indiens en Grande-Bretagne, qui, eux, ont au contraire un profil d'intégration, une trajectoire d'intégration qui est très différente, qui est un groupe qui a très bien réussi, qui a un niveau de salaire moyen qui est proche de celui des Anglais. Et il y a énormément de médecins, d'entrepreneurs. C'est un groupe qui a plutôt bien réussi. Et ce qui me permettait aussi de travailler sur l'influence du contexte d'installation sur les pratiques transnationales. Hein, parce que la Grande-Bretagne et la France, c'est bien connu, n'ont pas du tout les mêmes politiques à l'égard des étrangers. Donc là, et en particulier, l'un des éléments qui est tout à fait important, c'est la relation postcoloniale que maintient l'Angleterre avec ses groupes migrants, puisque notamment vous savez que la Grande-Bretagne accorde le droit de vote à tout ressortissant du Commonwealth. Enfin, ils l'ont fait jusque dans les années 79-80. Et du coup, il y avait une grande partie des personnes sur lesquelles j'ai travaillé étaient parfaitement intégrées dans les réseaux politiques locaux. Et il y avait une activité politique tout à fait commune. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, ou de façon très différente parmi les Maghrébins. Donc voilà, il y avait tous ces éléments-là qui m'intéressaient et qui me permettaient d'essayer de trouver des résultats à peu près généralisables partout. Enfin, c'est mon ambition. Voilà. La question des années 90, pourquoi dans les années 90, là, il faut que j'ai essayé de m'attaquer à la question de la temporalité dans le transnationalisme. Et ça, c'est une question qui est très peu étudiée. Ça a été plutôt abordé, d'une part, par les sociologues, donc par la nature des liens qui sont maintenus par-delà les frontières, les anthropologues, bien entendu, par les géographes. Donc notamment pendant mon travail de thèse sur la question de la spatialité, quelle forme prend cette spatialité transnationale. Mais la question de la temporalité, là, il y avait un grand vide. Je me suis attaché à essayer de trouver des outils pour... essayer de l'aborder. Et c'était un moment aussi, pendant mes années à Oxford, j'étais très très inséré dans les milieux anglo-saxons, hein. J'ai travaillé avec notamment Roger Waldinger, avec Lugar Pris, avec Peggy Levitt, avec des personnes comme ça. Et l'un des grands débats du moment, c'était la place, la relation, l'analyse du transnationalisme sur la longue durée, sur la longue période. Hein, j'ai participé à un ouvrage collectif sur cette question-là avec Roger Waldinger. Et donc, aborder le transnationalisme, mais dans ses développements et sur plusieurs décennies. C'était l'une des façons dont j'ai pu aborder cette question-là. Je vous montrerai aussi que ce qui m'a intéressé, c'est aussi le rapport à la mémoire collective, comment les mémoires collectives se construisent dans ces communautés transnationales-là. Voilà. Alors, j'essaie de retrouver où j'en suis dans le fil de mon propos. Alors, je ne vais pas vous parler du contexte, je ne vais pas vous resituer le contexte et l'histoire des migrations maghrébines. Je pense que c'est quelque chose que vous devez connaître ici largement. Pour essayer d'élaguer mon propos, il y a des choses que je ne vais pas aborder, notamment la question des Indiens du Punjab. Je vais me focaliser sur les Marocains et les Algériens. Et puis, il y a aussi toute une partie de mon travail que je ne vais pas aborder aussi. On en avait discuté lors de la préparation. C'est-à-dire, c'est la place et le rôle des États dans ces dynamiques-là. Ça, je le réserve pour les questions, si vous le souhaitez, et notamment aussi parce que je suis en train de commencer mon HDR sur la place de la circulation du pouvoir dans ces espaces transnationaux et comment s'insèrent les acteurs politiques et publics, locaux et nationaux, dans ces dispositifs-là. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Je m'intéresse notamment à la question de l'État transnational, finalement. Voilà pour cette parenthèse. Alors, je vais articuler mon propos à partir du développement, de la mise en... d'une perspective diachronique sur la mise en place de ces pratiques de développement sur le temps long. Je vais m'attacher à trois moments, trois instants, trois périodes qui sont pour moi trois moments clés de la construction à la fois de ces pratiques, de ces communautés transnationales, qui est ces trois moments, c'est le départ, le moment du départ. Qu'est-ce qui se passe au moment du départ? Je pense que les conditions initiales du départ sont l'un des facteurs essentiels ensuite de la formalisation de ces pratiques transnationales qui se développent par la suite. Le deuxième moment, c'est celui de l'arrivée, mais de l'arrivée de ces migrants-là s'est allé au cours de la période des années 60, 70, 80. Un moment qui se caractérisait par la mise en place de petits groupes de communautés issues de la même origine. Et puis le troisième moment, c'est, je l'intitule, l'âge transnational, ou l'âge du transnationalisme et le rapport, comment l'intégration dans le pays d'accueil vient bousculer ces dynamiques-là et viennent les transformer au point où on en est arrivé aujourd'hui à des communautés ou des relations qui sont beaucoup plus sophistiquées qu'elles ne l'ont été par le passé. Alors, en m'appuyant sur ces trois moments, vous verrez, j'aurai à la fois un volet empirique, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, mais aussi j'essaierai d'ouvrir des parenthèses plus théoriques. Comme ça, montrerai peu à peu la façon dont moi je perçois le transnationalisme, qui finalement diffère plutôt profondément des façons que l'on rencontre communément dans la littérature. Alors, je vous disais, les formes de transnationalisme se développent et dépendent beaucoup des conditions initiales du départ. Alors, l'acte migratoire, la décision de migrer, pour moi, elle repose sur trois niveaux essentiels. J'ai une lecture assez complexe et assez segmentée de l'acte migratoire. Elle dépend d'abord d'un choix individuel. C'est l'individu qui part avec une perspective d'émancipation, surtout de la part des jeunes, hein, qui quittent leur foyer. Donc pour rentrer dans la vie sociale, la migration est un moyen de s'affirmer en tant qu'individu social. Donc il est associé à un projet personnel de vie, professionnel, un projet aussi simplement de gagner un peu plus d'argent, etc. Donc il y a une dimension individuelle. Il y a bien évidemment toujours une dimension familiale dans le projet, notamment parce que la famille demande aux migrants de participer encore à la vie du foyer, notamment par ses transferts. Hein, la question des transferts est essentielle. Et puis, je pense qu'il y a une dimension politique dans l'acte migratoire, dans le départ, notamment dans ces communautés villageoises du Punjab aussi, mais des montagnes de l'Atlas et des montagnes kabyles, le migrant part, mais toujours en tant qu'aussi membre d'une communauté politique villageoise, et donc, malgré dans son départ, qui est un acte d'émancipation, il doit quand même participer à la reproduction de structures politiques, et notamment faire preuve d'allégeance, d'une forme d'allégeance à l'égard de la communauté politique. Alors, vous voyez, cet acte du départ, il est assez complexe, il se noue à un moment important, qui ce que j'appelle le don du départ. Qui peut prendre différentes formes, qui dans certains cas peut prendre une forme rituelle, hein. Il y a des rituels du départ où il y a une mise en scène du migrant, notamment au sein des foyers, de la famille, où on voit le père qui donne l'autorisation au fils de partir en migration. Mais ça peut aussi prendre tout simplement la forme d'un don d'argent pour payer le billet, ou même s'il n'y a pas de don d'argent, juste d'un assentiment. Peut être explicite. Donc il y a un don du départ qui engage l'acteur à la fois en tant qu'individu et membre de sa communauté. Et c'est par ce don du départ que l'acteur devient un émigré, voilà, qui part, mais avec des devoirs qui restent liés à son pays, sa région d'origine. Le deuxième moment, c'est celui de l'arrivée. Alors là, dans mon terrain, j'ai recueilli beaucoup de récits de cette arrivée. Où on me racontait l'accueil, l'arrivée en France ou en Grande-Bretagne, comment ils ont trouvé leur premier hébergement, leur premier travail. Et tout s'articule autour de l'aide que les contacts dans le pays d'accueil leur ont fourni. Hein, donc que ce soit un membre de la famille ou un ami issu du même village qui l'héberge les premières nuits, qui lui dit où trouver du travail. Et en fait... Cette première aide, c'est pour moi le don de l'arrivée. Le don de l'arrivée dans le moment duquel se noue cette condition de l'immigré cette fois. L'immigré, l'expatrié villageois, l'immigré. Donc il intègre cette communauté où se construisent des devoirs réciproques entre les membres issus de la même communauté. Voilà. Et cette condition de l'immigré villageois, elle se fait donc essentiellement dans les années 60-70 pour les personnes que j'ai interviewées, dans une période où être maghrébin en France ou indien en Grande-Bretagne, c'était aussi vivre dans des conditions précaires de logement. Avec des conditions de travail ouvrier à la chaîne extrêmement pénibles, ça soude ce que Pnina Werner, une spécialiste de l'immigration pakistanaise en Grande-Bretagne, appelle la communauté de souffrance. Voilà, et cette communauté de souffrance qui est toujours mise en balance avec les relations qui peuvent être quotidiennes ou hebdomadaires avec les autres membres de la communauté, où là on me parle de chaleur, d'entraide, où on se retrouve dans un café ou chez un des responsables de la communauté, etc. Donc vous voyez comment se met en balance. Vous avez entendu parler de Sayad qui parle de l'émigré-immigré. Moi, je l'ai retrouvé, mais en suivant le fil de ces personnes-là. Et cette condition de l'émigré-immigré, elle se construit dès l'insertion dans cette communauté transnationale. Alors, c'est là que se forme, c'est la base de ces formes associatives qui se construisent ensuite sur une base villageoise, ces associations villageoises. Qui ont d'abord le premier rôle de ces associations villageoises expatriées, c'est celui de l'entraide. Donc entraide au sein de la famille, donc de la communauté. Avec un soutien qui est aussi psychologique. Donc ça c'est des choses qui sont assez connues. Le deuxième rôle qui est mis en évidence dans mes travaux et dans la littérature d'une façon générale, c'est la façon dont ces organisations médiatisent le lien avec le village d'origine, puisqu'elles sont aussi là pour s'assurer que les membres continuent à respecter leur devoir d'émigrer, notamment celui du transfert. Voilà, si vous avez une personne qui arrête de transférer de l'argent pour une raison ou pour une autre, vous avez un coup de fil du village qui téléphone au leader en disant « qu'est-ce qui se passe ? Un tel a arrêté de transférer. » Ben, le leader, il va aller se rendre, frapper à la porte et lui dire « bon, écoute, t'exagères un peu, il faudrait que tu t'y remettes. » Donc vous voyez, il y a une pression sociale qui diffuse, qui se met en place et qui vraiment donne sens à ces structures villageoises reproduites en migration. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est un peu les mécanismes sociologiques de cette pression sociale. Et là, pour le comprendre, en fait, pour voir comment ça marche, je mobilise une notion qui a été utilisée dans l'anthropologie anglo-saxonne, qui est celle d'économie, même française, celle d'économie morale. Et en fait, je me suis rendu compte que cette économie morale, elle repose sur un imaginaire spatial qui est tout à fait particulier. Alors, j'entends par économie morale le fait que la perception de la migration, elle est extrêmement ambivalente. Le migrant, s'il n'envoie pas de l'argent, s'il n'honore pas ses devoirs d'émigrer, sont qualifiés tout de suite d'individualiste, d'égoïste, de quelqu'un qui est oublieux de ses origines, qui finalement a pris le pli de la société occidentale, de la modernité, et qui a complètement oublié de là où il vient. Et il y a être taxé d'égoïsme, tout ça repose sur une espèce de géographie morale où le village est érigé en centralité morale, un lieu de pureté, et alors que l'espace d'accueil est un espace qui est extrêmement ambivalent, qui est à la fois le lieu où tout est possible, parce que c'est là où on va trouver de l'argent, etc., mais en même temps que c'est un lieu de corruption, c'est un lieu de valeurs étrangères, c'est un lieu... Voilà. Et donc cette géographie morale imprègne complètement les relations sociales entre villageois et expatriés. Ce qui fait que vous avez le transfert, ce qui explique pourquoi le transfert, finalement, c'est une forme de don qui est tout à fait spécifique, puisque c'est un don sans contre-don. C'est un don qui est perpétuel, qui n'a pas de fin. Et ça, c'est rendu possible par cette économie morale-là. Hein, c'est vraiment le paiement d'une faute, d'une corruption fondamentale de la condition de migratoire. Voilà un peu les éléments de base de ce transnationalisme villageois. Mais la question, c'est comment ça évolue ? Parce qu'avec l'intégration dans la vie, l'insertion dans la société d'accueil, les migrants s'insèrent dans leur milieu professionnel, en apprennent les codes, de temps en temps deviennent syndicalistes, apprennent un nouvel univers social, politique, de nouvelles références culturelles. Et puis, un élément clé qui ressort aussi des interviews, c'est le moment où on s'installe en tant que foyer, où on se marie. Et là, ça change tout, parce que on était les enfants de ses parents, et donc il fallait continuer à envoyer de l'argent à ses parents, on était le membre de la famille, et tout d'un coup, on devient le parent de ses propres enfants. Donc ça renverse complètement les rôles, et ça produit de nouvelles obligations. Et en plus, il faut trouver un logement qui est plus grand. Donc on va quitter le quartier dans lequel on résidait, on va aller un peu plus loin. Donc c'est la période aussi, c'est le moment où aussi, par exemple, les Kabyles vont s'installer un peu plus loin en périphérie parisienne, les Marocains aussi. Il y a une diffusion comme ça, cette communauté qui était concentrée dans un arrondissement de Paris ou dans un quartier spécifique de la ville d'accueil, qui se met à se disséminer là. Donc les contacts entre interpersonnels sont de plus en moins fréquents. Et petit à petit, graduellement, insensiblement, les contacts se distendent, les références se transforment, certains deviennent commerçants, donc deviennent entrepreneurs, d'autres deviennent restent ouvriers, donc les trajectoires de classe deviennent différentes, les référents politiques, certains deviennent se marxisent, d'autres au contraire restent extrêmement traditionnels, donc vous avez et vous avez comme ça ces groupes villageois qui se déstructurent, qui s'effilochent avec le temps. Et c'est là que arrive un moment de rupture qui a concerné en fait l'immense majorité de ces groupements villageois, qui est celui de la dissolution. Et les associations villageoises qui ont perduré dans le temps sont celles qui ont réussi à réinventer un référent villageois commun qui puisse les souder par-delà ces différenciations. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle c'est là que rentre en ligne de compte cette question du développement. Mais avant d'aborder ce troisième moment, qui est celui de l'âge transnational, juste je voulais refaire un petit point sur un peu plus théorique, puisque vous voyez comment se dessine ma conception du transnationalisme, qui est fondée sur une conception segmentée de l'émigré immigré et plus généralement une conception segmentée de l'acteur social de l'être humain. Et je m'appuie en particulier, enfin il y a mes deux références, mes deux inspirations, c'est ici Bernard Lahire, l'homme pluriel, mais aussi ce qui m'intéressait aussi, c'est dans l'école de Chicago les travaux de Robert Merton sur ce qu'on appelle la role set theory. Donc le fait que les acteurs sociaux sont insérés dans une pluralité de milieux sociaux et doivent répondre à une diversité d'attentes à l'égard de ces différents milieux sociaux. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, au-delà de cette diversité, doit se reproduire, se reconstruire un monde vécu commun sous peine de dissolution de ces groupes, de ces différents groupes. Alors, j'en arrive à cet âge transnational. Donc, on observe une multipolarisation de leur espace de vie et une multipolarisation de leur propre identité. Alors là, je vous disais, il y a trois possibilités. Soit j'ai abordé celle de la rupture, que les Américains appelleraient celle de l'assimilation. Donc la rupture de la dissolution, la rupture avec le pays d'origine, non seulement parce que les migrants eux-mêmes ont changé, mais aussi parce que le village d'origine a changé. Il s'est profondément transformé. Et quand ils reviennent dans leur village d'origine, ils ne le reconnaissent plus. C'est le cas le plus dramatique, entre guillemets, que j'ai observé. C'est probablement celui du Punjab, où les personnes quittaient un village de 2000 habitants. Et maintenant, c'est des petites villes de 20-30 000 habitants, le village qu'ils ont. La démographie indienne aidant, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc il y a cette rupture qui est possible. Le deuxième, qui est probablement le comportement majoritaire, C'est celui du repli sur la sphère privée. Et finalement, les engagements publics, les engagements collectifs plutôt, sont rompus. Et donc, on garde des contacts avec le pays d'origine, mais à minima, à travers des contacts avec la famille, des coups de fil, de l'envoi d'argent, et puis c'est à peu près tout. Et puis, quand les parents décèdent, eh ben, on coupe les liens. Et la troisième possibilité, eh ben, c'est celle qui m'a intéressé, c'est celle de la réinvention d'un monde commun. Et puis qui se permet de renouveler, de relégitimer les engagements collectifs. Alors elle se fait par le biais du développement. Alors pourquoi le développement ? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent pourquoi pas par exemple le religieux ? Pourquoi le développement est si... Le religieux est là, hein. Il y a beaucoup de constructions de mosquées, de temples, de... Voilà. Mais c'est une première étape. Mais pourquoi est-ce qu'ils se mettent à faire du développement ? C'est quand même assez curieux cette histoire, puisque les associations villageoises ne sont pas faites pour ça à la base. Alors le développement, il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est que c'est consensuel. Tout le monde est d'accord pour faire du développement. Hein, qu'on soit entrepreneur ou ouvrier, tout le monde est d'accord pour électrifier le village, tout le monde est d'accord pour construire une école, il n'y a pas de souci. Donc l'équipement collectif se fait assez naturellement dans ces conditions-là, et ça s'observe partout dans le monde. Hein. C'est vraiment les premiers projets, c'est on construit un bâtiment collectif. Le deuxième type de projet, il est un petit peu moins consensuel. En général, c'est des projets à caractère social. Donc là, c'est donc plutôt des cours d'alphabétisation ou alors des cours ou des actions pour promouvoir les femmes ou le travail des femmes dans le village, etc., des choses comme ça. Et la dernière étape, qui est très rare, qui concerne très très peu d'associations, c'est le passage à l'économique. Hein, les investissements productifs, là, c'est extrêmement rare, extrêmement compliqué, extrêmement difficile à mettre en place, parce que ça touche aux intérêts particuliers. Hein, c'est après, une fois qu'il y a de l'argent, la question de savoir où va l'argent, et ça c'est vraiment des choses que les associations préfèrent pas toucher. Alors... ça, c'est la première idée, c'est consensuel, ça concerne tout le monde est d'accord pour faire du développement. Mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui parle aux immigrés eux-mêmes, parce que dans la mesure où le développement, monter un projet de développement, ça dit quelque chose sur la complexité de leur propre identité. Puisque c'est vraiment redéfinir, c'est faire introduire dans l'espace du village quelque chose qui vient du pays d'origine. Donc il y a pénétration dans le village d'éléments factuels, d'éléments concrets, de leur expérience de vie dans l'espace d'origine. Et donc ça dit quelque chose sur leur double ancrage, sur leur double... Et aussi ces projets de développement, ça permet à ces migrants de raconter ce qu'ils vivent, leur vie, dans le pays d'accueil. Hein, je crois que j'ai confondu tout le temps pays d'origine, pays d'accueil. Excusez-moi. Hein. Voilà, ça dit quelque chose sur leur expérience de vie dans le pays d'accueil. Hein, vivre avec l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire ? Vivre avec un accès aux soins différents, etc. Avec le téléphone, avec... voilà, c'est quelque chose qui leur permette de raconter sur d'une façon qui est complètement inédite leur expérience de vie dans le pays d'accueil. Donc ça dit quelque chose sur leur multiplicité d'ancrage, à mon avis. Et donc ça permet, quelque part, de redéfinir les termes de l'économie morale dans lesquels ils étaient inscrits. Puisque pour une fois, l'immigré peut apporter quelque chose d'un peu plus positif et de renverser les valeurs de corruption qui étaient associées à son statut. Et... notamment, bon, dans ma thèse, je m'étais intéressé à la façon dont ça se faisait dans la spatialité du village. Et là, dans ce livre, tiens, d'ailleurs, je crois que je voulais le faire passer, je me suis intéressé à cette question de mémoire collective et la façon dont ces personnes utilisent pour qualifier les projets de développement des termes qui sont normalement relèvent du vocabulaire traditionnel. Donc, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi électrifier un village ? Bah, le berbère Schleu, émigré, va me dire « mais c'est du Tiwizi ». Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que le Tiwizi ? Le Tiwizi, c'est le code coutumier berbère qui régule les travaux collectifs au sein du village. Et l'Indien Punjabi va me dire « c'est du Seva ». Le SEVA, qu'est-ce que c'est? C'est un don désintéressé qui se fait dans le cadre de la religion, de la religion sikh et hindoue. Voilà. Donc ils utilisent ces termes-là, c'est pas anodin. Et ils les utilisent, ils les réinterprètent pour qualifier des choses qui ne l'étaient pas. Et donc ça leur permet à la fois de trouver une légitimité traditionnelle, donc de s'inscrire dans une mémoire collective du village, mais en même temps de la redéfinir, cette mémoire collective, et de lui donner un autre sens qui leur correspond mieux. Et donc c'est là où on voit que cette économie morale, elle s'inscrit non seulement dans une géographie morale, mais aussi dans une temporalité morale. Hein, et il faut aborder cette question de ces champs transnationaux villageois comme un espace-temps. Alors, voilà, je vais ouvrir une deuxième parenthèse théorique, où là, voilà, j'aborde cette question de l'acte de l'engagement transnational comme quelque chose qui dit, qui parle du positionnement complexe et dual de ces migrants-là. Et en fait, je le théorise, je m'appuie sur les questions d'agir communicationnel de Habermas. Hein, c'est agir dit quelque chose, c'est un positionnement qui est pris, un parti pris qui est pris sur son propre positionnement, sur qui on est, et comment on perçoit le monde et soi-même dans le monde. Voilà, c'est là. Je comprends cette agencéité migratoire comme un agir communicationnel. Les pratiques transnationales, ce sont des actions communicationnelles. Et elles sont produites par la nécessité pour les migrants de circonvenir, de dépasser, de se réapproprier cette fracture fondamentale de l'émigré et immigré. Hein, de renverser ces termes de l'économie morale et surtout de dépasser les contradictions de cette condition de l'émigré et immigré. Et donc là, on observe un phénomène d'émergence, c'est-à-dire que les migrants rompent avec les routines, rompent avec les pratiques habituelles. Là, on n'est plus dans la simple action « j'envoie de l'argent à ma famille », ça c'était la routine, on est sur autre chose. Tout d'un coup, il y a du développement, des projets de développement qui se font. Donc c'est ce qu'on appelle dans la littérature sur la structure agence, hein, un phénomène émergent, une émergence. Et voilà comment, finalement, je comprends le transnationalisme. C'est comme un phénomène émergent qui est né de la nécessité de dépasser les attentes contradictoires auxquelles font face ces migrants. Voilà. Alors, dernier point de cette... je vais conclure avec ça. Sur... les associations villageoises, hein, ces associations villageoises en expatriés, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Je vous disais, au début, c'était un lieu d'entraide. Dans cet âge transnational, elles deviennent quelque chose qui est complètement différent. Pour moi, c'est un lieu de réinvention de l'identité villageoise. C'est un lieu de discussion, de débat, d'essayer de dépasser, de transcender les différences qui fracturent ces petites communautés villageoises. Et elles sont devenues également des ONG de migrants dont le rôle a changé. C'est plus seulement un rôle de médiation à l'égard du village d'origine, mais aussi maintenant, de plus en plus, un rôle de médiation à l'égard de la société d'accueil, dans la mesure où elles sont aussi en charge de trouver des financements complémentaires pour ces projets de développement. Donc elles ont un rôle de captation de la manne financière. Et donc, à ce moment-là, elles sont obligées d'aller auprès des pouvoirs publics, auprès d'autres ONG, pour monter des dossiers. Donc, elles rentrent dans un univers qui est complètement différent. Et ça, on voit émerger de nouvelles compétences, avec notamment c'est les jeunes qui prennent la relève, puisque c'est eux qui ont les compétences pour monter des dossiers, pour négocier de l'argent, pour essayer d'attirer des financements différents. Donc c'est devenu des organisations de captation d'une manne à la fois technique et financière. Juste, je voulais vous montrer un petit graphe. Ça concerne, j'ai fait une étude des créations d'associations marocaines sur la base du journal officiel depuis 1997. Et vous voyez toutes les associations qui sont en relation à soit des questions de développement, soit des questions d'associations villageoises, d'animation du groupe villageois, elles ont pris le pas de plus en plus sur les associations qui avaient un caractère civique ou socioculturel, c'est-à-dire des associations qui ne s'intéressaient que aux activités des groupes migrants dans la société d'accueil. Donc vous voyez la transformation qui s'est faite essentiellement à partir d'abord ça a commencé dans les années 90 et puis ensuite beaucoup, ça a explosé au cours des années 2000. Et une des raisons qui a permis cette explosion-là, c'est bien évidemment, et là je terminerai par là, c'est la transformation du contexte politique et des nouvelles politiques publiques qui sont associées, donc les politiques de co-développement en France, qui ont fourni une manne financière et technique et un appui politique à ces groupes-là, mais aussi les nouvelles politiques migration et développement au Maroc, ou en Algérie, ou en Inde. Et des politiques de développement qui, je m'en suis rendu compte, sont basées sur deux piliers. D'une part, la décentralisation. On donne beaucoup plus de pouvoir aux collectivités territoriales, mais pas plus de moyens financiers. Donc maintenant vous êtes en charge de l'aménagement du territoire, des histoires de développement, mais débrouillez-vous pour trouver de l'argent. Que font les collectivités territoriales? Soit elles s'adressent à des ONG locales ou internationales, soit à des migrants quand elles le peuvent. Et le deuxième pilier qui est de ces nouvelles politiques de migration et de développement dans ces pays-là, et ça c'est pareil quasiment dans tous les pays que j'ai observés, c'est l'ouverture de la société civile. Où on ouvre les vannes, les autorisations, on permet aux gens de s'investir dans des associations de plus en plus, à condition que ça soit pour le développement. Par contre, tout ce qui est association politique, là, on ne veut toujours pas en entendre parler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se fait étroitement en lien, je terminerai là-dessus, avec des politiques, une nouvelle génération de politiques d'ajustement structurel, puisque très souvent, derrière ces lois, on voit l'ombre de la Banque mondiale ou du FMI. D'où l'universalité du phénomène. C'est tout.
Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation extrêmement intéressante et qui soulève des questionnements et des parallèles avec d'autres types de recherches, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et notamment sur les dimensions théoriques, sur... la question de du transnationalisme,
tu veux ça,
des espaces-temps, du rapport à l'espace et au temps, de la construction de ces espaces transnationaux. Donc nous verrons peut-être tout à l'heure, justement dans la discussion, si cela peut être partagé sur d'autres terrains ou pour d'autres approches thématiques. Mais maintenant, nous allons passer à la présentation de Sophie Baba. J'ai perdu mon titre. Parce que j'ai perdu ma connexion.
Je te le dis, le titre. Ouais. Je peux le lire, monsieur.
Oui, Migration africaine et christianisme au Maroc. Une théologie en mouvement au service de la pluralité religieuse.
C'est long. Ça passe pas ? Non, c'est ça. Je change de place.
C'est sélectionné.
Sélectionné.
Ça fait.
Ça fait comme tout à l'heure, c'est ça ? Ah non, je n'ai rien touché.
Ah,
c'est
beau. Bon.
Ouais. Il y a des jolies photos, tu as les utilisées. Donc ce sera pas. Merci Thomas pour ta présentation qui nous montre ce transnationalisme par le bas, toujours téléguidé par le haut en fait, parce que du coup ça se termine à la fin quand tu dis que c'est la Banque mondiale et tout ça, du haut, merde. Et on va essayer de voir aussi à travers d'autres acteurs. Merci Delphine pour cette invitation au séminaire à la chaire, pour continuer à réfléchir ensemble sur des problématiques qui se croisent pour les uns et pour les autres, puisque ça fait quand même des années qu'on se croise sur des terrains qui se ressemblent aussi avec Thomas, notamment l'aspect géographique, puisque là je suis au Maroc maintenant, mais aussi sur d'autres aspects, aussi sur une culture finalement, une culture aussi sociologique, pas géographique pour moi, mais sociologique quand même, qui est proche. Donc j'ai commencé moi à travailler sur ces questions de migration et de religion dans un contexte qui était celle des Sénégalais en France, et pour montrer qu'il y avait une construction de la religion dans la migration. Au départ, c'est ce qui m'intéressait. Et puis petit à petit, les frontières se sont fermées et les gens se sont de plus en plus installés dans cette Afrique méditerranéenne. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, le religieux était aussi une ressource dans la migration. C'était pas seulement une construction des migrants pour asseoir une place, pour revenir sur ce que disait Thomas, pour asseoir une place dans le pays, mais finalement que la religion, elle était d'abord une ressource sur les routes de la migration, une ressource aussi bien pour les migrants que pour les acteurs religieux, finalement, qui vont là où les migrants passent et s'installent, créer un véritable marché religieux autour d'associations qui vont venir tout d'abord, qui vont être là, placées, qui vont se mettre là, donc des ONG confessionnelles et autres associations qui se mettent en place pour aider les migrants, etc. On va voir aussi toute une dynamique autour des lieux de culte qui va se dynamiser là où passent les migrants. Et ce qui m'a intéressé petit à petit, c'est de voir comment ça pouvait se construire. Alors, à la croisée entre l'anthropologie religieuse et la sociologie des migrations, et avec du coup aussi une histoire aussi commune de cette théorie, une anthropologie religieuse du mouvement. Alors, c'est la manière plutôt dans cette anthropologie religieuse du mouvement, c'est plus observer un transnationalisme par le bas, parce qu'on n'est pas dans le cas, on est moins dans le cas de structures religieuses transnationales qui vont se déplacer dans des espaces et qui accueillent les migrants, plutôt que dans des constructions, la manière dont des constructions religieuses des migrants qui vont devenir les entrepreneurs religieux de leur foi sur les routes de la migration. Alors dans ces espaces-là, alors j'ai commencé après les migrations sénégalaises, je travaillais plus sur l'Égypte, et puis en Égypte, petit à petit, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y avait de plus en plus de chrétiens qui arrivaient, de migrants qui arrivaient d'Afrique centrale. Et j'ai moins travaillé sur cette question de l'islam, mais plus sur cette question du christianisme qui se développait dans ces pays d'Afrique méditerranéenne, dans lesquels les migrants n'étaient plus seulement, les migrants africains n'étaient pas seulement de passage, mais s'installaient de plus en plus durablement. D'Égypte, après, je suis passée au Maroc, tout simplement, parce que c'était des espaces dans lesquels il y avait de plus en plus d'ancrage, et aussi parce que le christianisme prenait une place plus importante par les migrants au Maroc. Et ce que j'essaye de montrer dans mes travaux, c'est d'une certaine manière comment les migrants vont reconstruire ce christianisme en migration, mais comment aussi cette question religieuse apportée par les migrants va poser question dans le pays d'accueil. Je vais prendre de l'eau. Donc, une anthropologie religieuse du mouvement qui part d'un premier constat finalement, c'est que les routes de la migration sont longues, hein, et que les temps de la migration sont des temps longs, des temps où on va ancrer sa foi. Il y a des migrants qui me disaient « Dieu devient un compagnon de voyage dans ces moments-là ». Et donc c'est une manière dont on part avec sa foi, où on va ancrer sa foi, une manière dont aussi on peut dire que les gens vont partir avec leur héritage. Mais finalement, on se rend compte que paradoxalement, c'est aussi la migration, c'est ce temps de l'émancipation, ce temps où on s'éloigne de ses parents, où on s'éloigne des aînés, où on va faire des nouvelles expériences religieuses. C'est aussi, du coup, ce temps-là de la migration et de l'installation dans certains pays. C'est un temps de négociation entre, d'un côté, une religion héritée qui nous a été transmise, et puis, petit à petit, une religion expérimentée dans la mobilité. Alors, on parle aussi, en anthropologie religieuse, de butinage religieux. C'est un moment où on va essayer de... où on ne va pas essayer, mais c'est un moment où on construit sa foi. Donc, vous voyez, sur les photos... Je parle de l'ancrage de la foi sur les routes de la migration parce que c'est vraiment des moments où personnellement on va essayer de retrouver une spiritualité qui nous accompagne pour le voyage, mais c'est aussi un moment où on fonde des associations, des organisations, des églises, etc. Donc il y a énormément, bon là on était au Caire, là on est au Maroc, etc. Et donc sur le contexte marocain, je vais un petit peu vous expliquer ça, c'est que de plus en plus, on était dans une période depuis la fin de l'époque du protectorat où les églises étaient complètement vidées, on avait des églises qui avaient disparu. Du côté de l'église catholique, elles avaient encore, on va dire, leur parc immobilier d'église. Il y avait encore pas mal d'églises, mais très, très peu fréquentées. On retrouvait seulement dans ces églises quelques Européens ou des diplomates qui venaient, etc. Mais donc des cultes avec peu de monde. Du côté de l'église protestante, ils avaient même commencé à vendre leur patrimoine. Hein. Et par exemple, du côté de l'église protestante au Maroc, l'église évangélique au Maroc, il restait un pasteur dans les années 80 qui faisait tout le territoire. Donc on était dans une période au Maroc où le christianisme faisait sa révérence. Hein. On était dans un christianisme qui s'éteignait. Et puis arrivent les années 80 où on parle des étudiants africains qui arrivent au Maroc. Alors on parlait d'étudiants, mais c'est toujours pareil. Hein. Si on remonte par rapport au terrain sur lequel je travaille, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient sur les routes et qui s'installaient de plus en plus durablement. Et ce n'était pas seulement des étudiants, mais le Maroc voulait aussi ne voir que des étudiants dans sa migration. Elle avait déjà un petit peu du mal à l'époque à accepter qu'il y ait une migration qui arrive, une migration économique, une migration de toute l'Afrique. Donc on disait les étudiants, alors qu'en fait, il y avait quand même une grosse population. Donc dans ces moments-là, les églises vont se re-remplir. On se remplir de chrétiens qui arrivent d'Afrique centrale. Alors, je parle de Centrafrique, Cameroun, Rwanda, les deux Congos. Enfin, voilà, toute une population qui arrive, qui s'installe, qui re-remplit ces églises. Et du coup, des cultes qui sont tenus par, d'un côté, des prêtres catholiques, mais quand même en nombre insuffisant, et de l'autre côté, des pasteurs protestants. Mais alors là, en nombre très, très insuffisant. Donc il va falloir, dans ces moments-là, au Maroc, où il n'y a pas encore la politique migratoire qui va commencer en 2013, on est dans une période où il y a un véritable bouillonnement chrétien, mais qui peut aussi partir dans tous les sens, parce que autant l'église catholique est une église qui se ressemble un petit peu partout, autant la famille protestante est très, très large, et il y a des églises qui vont se créer partout, des églises qu'on appelle églises de quartier ou églises informelles, des églises de maison, en fait, toutes ces petites églises avec des pasteurs qui soit connaissent une vocation en migration, parce que dans la migration, finalement, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des réelles vocations religieuses. Je disais que c'est un moment où on ancre sa foi, mais c'est un moment aussi où des fois on découvre aussi une vocation religieuse, et notamment, on a aussi pas mal de pasteurs qui vont devenir pasteurs en migration. On en a qui sont déjà pasteurs ou qui ont déjà un lien très fort avec la religion avant de partir et qui vont construire leur église. Et toutes ces églises sont... Là, c'est l'exemple d'une église, là, la Menkaché à Rabat. Toutes ces églises sont un petit peu sous le même format, mais des formats un petit peu précaires dans des appartements et des formats aussi où finalement on peut être délogé très vite si on fait trop de bruit, si on chante trop fort. On est dans un système évangélique, hein, ou pentecôtiste, ou assemblée de Dieu, etc. Toute cette famille protestante, c'est aussi des cultes qui sont très animés, avec beaucoup de chants. Là, je vous montre une photo vide. Vous voyez ce que c'est, un lieu avant qu'il soit investi. Et donc, c'est des appartements qui sont investis par les gens, et c'est des moments où on va se retrouver en communauté, et c'est pas un culte par jour, c'est 3 à 5 cultes par semaine. Donc c'est vraiment les églises informelles, c'est aussi des lieux qui sont construits par les migrants pour répondre à ce besoin de spiritualité, mais pas seulement, puisque c'est aussi des lieux où on se retrouve, où on discute, où on va parler de la politique migratoire du Maroc aussi, puisqu'il y a même des affiches dans ces églises qui expliquent comment va se mettre en place la politique migratoire, etc., qui il faut contacter, etc. Donc c'est des lieux ressources socialement, c'est des lieux où on rencontre des gens, où on peut trouver un travail, c'est des lieux où on peut rencontrer des passeurs aussi, qui font continuer le voyage et l'aventure pour certains. Donc dans ces espaces et dans cette dualité au Maroc, on a les églises historiques qui sont là, qui accueillent de plus en plus de monde, qui débordent, qui ont des cultes le samedi et le dimanche surtout, qui commencent aussi qui ont développé aussi tout un service social, un service d'entraide, un service aussi pour les enfants, etc. On a dans ce paysage religieux, sur cette scène de la migration et sur le marché religieux dont je vous parlais, on a tous les ONG confessionnels qui sont arrivés, donc Caritas et pas mal d'autres, le CEI et plein d'autres ONG confessionnelles, des associations de migrants aussi, des associations qui sont à moitié politiques et à moitié spirituelles aussi, Alors ça, c'est un vrai mélange, c'est ce qu'on retrouve souvent. Là, c'est une chorale. Donc, et on a ces églises qui se disséminent sur tous les quartiers où il y a des migrants, de Rabat, de Casa, de Fès, de Tanger, et même dans les camps, puisque il y avait un passage à un moment donné où je vous montrais la structure de ce que peut être aussi ces espaces religieux dans les camps aussi de d'Oujda, c'est-à-dire des temples de fortune. Alors je faisais... Ouais. Donc on a tous ces espaces qui sont... Ah non, là je vais dans l'autre sens. Tous ces espaces qui se développent. Et de fait, pour les responsables du christianisme au Maroc, pour eux, ça a d'abord été vu comme une bénédiction. Toute cette migration, c'est une réelle bénédiction. C'est globalement, tous ces gens qui arrivent, qui sont chrétiens, ça va permettre de redynamiser le christianisme au Maroc. Mais ça va surtout permettre au christianisme de reprendre une place. Et de fait, on n'est plus dans les mêmes schémas. On n'est pas dans un christianisme de la domination. On est dans un christianisme qui arrive par le bas et qui fait peur aussi, et qui fait peur aussi bien aux églises, aux responsables des églises officielles, qu'au pouvoir et au ministère des Habous marocains. C'est-à-dire que dans ce bouillonnement chrétien, dans tout ce religieux qui arrive au Maroc, il va y avoir quelques angoisses quand même de peur de prosélytisme, de conversion, etc. Toutes ces choses qui sont punies par la loi au Maroc, qui est un pays musulman, où la pluralité religieuse est acceptée, sauf pour les Marocains, donc pour les étrangers, on va dire. Donc c'est un pays où la liberté religieuse n'est encore pas accessible à tout le monde, et c'est des réelles revendications au Maroc, on verra aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, en 2011, le gouvernement marocain va expulser 120 pasteurs, notamment des pasteurs américains, qui faisaient un peu trop de prosélytisme, qui se montraient un petit peu trop. Et de fait, ça va faire vraiment peur aux responsables d'église, qui eux se disaient, on est dans un bon chemin, on peut réinstaller le christianisme au Maroc. Il faut savoir aussi dans le contexte marocain que c'est pas seulement un christianisme de la colonie. Il y a eu dans la phase entre le début des indépendances et aujourd'hui toute une part de personnes qui se sont mobilisées. Alors, j'allais dire d'un christianisme un peu mondain, c'est tout ce réseau qui travaille sur l'interreligieux, surtout les groupes de recherche sur l'interreligieux où on a des professeurs, on a des chercheurs, où on a des gens qui sont issus notamment de couples mixtes, hein, beaucoup de Français vivant au Maroc et vivant en couple mixte qui font vivre cet interreligieux au Maroc. On parle communément de dialogue des religions, enfin depuis Vatican II, etc. Mais dans les pays du Maghreb, c'est une réalité. C'est des groupes qui essayent d'impulser aussi une véritable discussion, un véritable débat, une théologie qui se réfléchit entre différentes religions. Donc ces groupes-là existent au Maroc, puisqu'il y avait le père Jacques Levrat, il y avait des figures importantes de l'interreligieux qui étaient au Maroc et qu'on fondait des lieux comme ça de discussion entre l'islam et le christianisme. Donc on est dans cette logique où il ne faut pas que tout ça disparaisse. Donc les gens vont aussi s'emparer de cette question-là en disant si le christianisme part dans tous les sens, si ce bouillonnement chrétien se déverse partout, etc., s'il n'y a pas de contrôle, finalement ce qui va se passer, c'est que le gouvernement marocain et le royaume va mettre à la porte tous les chrétiens, va interdire les cultes, et puis on sera mal barré là-dessus. Donc petit à petit, il y a notamment un pasteur un peu visionnaire à l'époque et aussi qui s'investit pour mettre en place une formation et un encadrement théologique. Donc l'idée aussi, ce qu'il faut comprendre dans ce pays aussi, c'est qu'à partir de 2013, il y a une politique migratoire qui va se mettre en place et que cette politique migratoire va aussi servir à l'apaisement un petit peu social quand même dans les quartiers de migration. On sent qu'il y a une reconnaissance aussi des migrants par le royaume et du coup, pour les gens dans les quartiers, les voisins, les Marocains qui vivent avec les migrants, qui vivent à côté de ces églises informelles, où ça chante, où ça danse, etc., on sent que petit à petit, il y a plus d'acceptation. Il y a le temps qui fait, il y a le temps long, hein, parce qu'effectivement, on est dans des temps longs, mais il y a aussi le fait qu'il y a une première politique migratoire, une première phase de régularisation en 2013, qui se termine en 2015 avec 27 000 régularisations au Maroc. Donc le premier pays en fait de toute l'Afrique à mettre en place une politique migratoire, c'est le Maroc. Donc 2015 et 2016, fin 2016, début 2017, commence une deuxième phase de la politique migratoire du Maroc avec la régularisation. Donc à peu près, on atteint à peu près une régularisation à peu près autant. Donc là-dessus, il va falloir surfer sur cette vague où, entre d'un côté, pour les chrétiens, on a accepté, mais tout doucement, on va dire, d'un côté, on commence à être dans des églises informelles, mais avec des gens régularisés. Donc avec moins de crainte quand même, finalement, de faire des cultes, parce qu'on est dans des moments où il y a un petit peu d'apaisement. Il y a des exemples dans les quartiers, tout simplement, où les gens, le fait d'être régularisés, vont me dire c'est une véritable renaissance. J'ai un passeport, avec ma vraie date de naissance, mon vrai pays, ma vraie ville. Enfin, c'est quelque chose qui est énorme, sur lequel on n'arrive pas toujours à se rendre compte quand on est, comme le cas de Jumelle, là, qui est devant. Ça fait 17 ans qu'il est parti de chez lui, 17 ans où il a pas eu de vrais papiers. C'est la première année où il a des vrais papiers. Donc cette renaissance-là, c'est aussi une forme de légitimité aussi, et qui va permettre à ces acteurs religieux au Maroc d'exercer plus tranquillement aussi leur culte, et finalement aussi d'avoir une théologie qui diffère. Alors ce que je vous disais, mais parce que je ne suis pas rentrée trop dans les détails, c'est que je travaille quand même en anthropologie religieuse aussi, en sociologie d'immigration. Et dans l'anthropologie religieuse, chaque fois, je m'inspire quand même et je travaille la théologie aussi. Et j'ai suivi aussi des cours de théologie chrétienne parce que je ne connaissais pas grand-chose au christianisme, notamment dans un institut dont je vous parlerai après. Et dans cette théologie chrétienne, finalement, de toutes ces petites églises qui arrivent, on était plutôt dans une théologie des croisades, une théologie qui était un petit peu guerrière. On n'était pas admis sur le territoire, on n'était pas aimé, on était, voire des fois, tué, voire rejeté, discriminé quand même régulièrement. Et finalement, du coup, la théologie, elle s'adapte. On était dans une théologie qui rejetait aussi bien les autres chrétiens, les historiques, finalement, qui ne nous acceptaient pas tant que ça, que les musulmans. On appelle ça une théologie des croisades. Et c'est toute cette théologie qu'il fallait contenir. Ce n'est pas seulement ce pluralisme en termes, il y a différentes dénominations, différentes églises. Non, il y avait vraiment une théologie qui était guerrière, qui était dangereuse, et qui était dangereuse aussi pour l'unité religieuse du territoire. Donc on passe petit à petit avec un ensemble d'acteurs qui vont s'impliquer sur cette scène religieuse au Maroc, notamment les protestants, qui vont devoir aussi un petit peu encadrer toute cette diversité, mais aussi toute cette tension et toute cette violence qui pouvait être dans les églises, à une théologie qui devient une théologie de la migration, une théologie qui va s'adapter. C'est pour ça que je parle d'une théologie en mouvement, parce que c'est une théologie inductive, par le bas. C'est une théologie que certains acteurs religieux de l'église protestante, l'église évangélique au Maroc, le EAM, vont pas théoriser, puisque finalement, à la limite, c'est moi qui me suis chargée de la théoriser pour eux, parce que maintenant, il y a des prêtres et des pasteurs qui arrivent et qui me disent, mais voilà, mais comment je fais alors, parce que les migrants, là, ils me parlent d'un dieu de l'aventure, etc. Et je dis, mais moi, je suis qu'anthropologue, mais c'est vrai que j'ai commencé à théoriser cette théologie de la migration en m'inspirant aussi, finalement, de ce que j'avais vu sur terrain, de la manière dont les pasteurs... Bon, il y en a quelques-uns qui ont déjà vu aussi une séance, tu l'as vu aussi, où un culte de la régularisation où un pasteur va s'inspirer de cette politique de la migration pour parler et pour expliquer justement pourquoi on est bien sur cette terre, pourquoi on est accueilli là, etc., qu'on n'est pas là par hasard, que Moïse et Jésus étaient aussi des migrants, etc. Donc toute une théologie de la migration qui va s'inspirer du vécu des gens. Et qui est donc une théologie, on connaît bien en anthropologie la question inductive, donc qui naît par le bas et qui va se construire pour être adaptée aux situations que rencontre le migrant. Donc d'une théologie des croisades, on passe de plus en plus, grâce à certains acteurs, à une théologie de la migration, une théologie finalement en mouvement aussi, comme ces gens-là, mais qui prend en compte petit à petit la réalité de leur vécu, et surtout qui a une visée politique qui est celle de l'apaisement. On est d'accord, on est dans une théologie qui veut reconnaître, dans le culte sur la régularisation qu'avait fait pasteur Samuel, on reconnaissait, on remerciait le roi, on remerciait le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Aliazami, d'avoir régularisé des gens, de trouver sa place, etc. Donc on est dans une théologie, je disais à un moment donné, qu'on est aussi pas loin des théologies de la libéralisation, d'Amérique latine, parce que c'est une théologie finalement aussi politique, une théologie qui s'adapte, mais qui veut rentrer aussi dans la logique, dans cette pensée aussi théologique d'être acceptée sur un territoire. Donc c'est une théologie de l'apaisement aussi, mais qui donne des perspectives, qui disent on n'est pas là par hasard, on est là pour reconstruire un christianisme au Maroc. Donc vous voyez, on est dans petit à petit... Des parcours de migrants à des réelles constructions théologiques. On a quand même passé quand même quelques années au Maroc, entre les premiers migrants qui sont arrivés, qui ont développé toutes ces églises, petit à petit les renvois de certains pasteurs à une église, petit à petit qui s'installe, des églises historiques et des églises informelles qui commencent à travailler ensemble, tout simplement parce qu'il y a eu, à un moment donné, des acteurs religieux, dont l'évêque de Rabat et notamment le président de l'église évangélique au Maroc, qui ont décidé de mettre en place une formation et un institut de formation qui s'appelle l'Institut Amourafaka. L'Institut Amourafaka, qui est un institut de formation œcuménique théologique, catholique et protestant, qui va former les leaders religieux. Et ce qui se passe souvent dans la migration, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que chacun arrive avec sa religion. Effectivement, la religion, c'est un bagage comme un autre. On construit sur place, on construit ensemble aussi, on construit avec ce qui se passe localement. Mais il va manquer, à un moment donné, la formation des leaders. Parce que sinon, ça part dans tous les sens, c'est ce que je disais. Donc autant l'Église catholique envoie des prêtres, autant l'Église protestante envoie très peu de pasteurs et les gens sont formés un petit peu sur le tas. Donc il faut un peu uniformiser tout ça. Donc ils ont mis en place cet institut dans un ancien lieu qui appartient à l'Église catholique, qui était justement un lieu dédié à l'interreligieux. C'était la source qui avait été fondée par le père Jacques Levrat dont je vous ai parlé. Donc vous voyez là, c'est un professeur qui donne un cours dans la chapelle quand même, donc un cours d'islamologie dans la chapelle. Et donc c'est une soutenance avec la belle chemise du pape François pour un étudiant centrafricain. Mais donc tout ça dans ce lieu-là, ils vont mettre en place avec l'université de Strasbourg et la Cato à Paris une formation universitaire, une licence de théologie pour former des gens à la question de l'œcuménisme chrestien, bien sûr, c'est-à-dire à ce qu'on rencontre quand on est en migration, c'est-à-dire à savoir dialoguer pas seulement avec les musulmans, mais entre chrétiens, parce que ce que me disait même l'évêque à un moment donné, c'est que le plus difficile, ça a été de dialoguer entre chrétiens, pas avec les musulmans. Ce que les musulmans leur ont apporté, surtout pour les uns et pour les autres, c'est que les 5 prières par jour, une foi qui est très présente, ça a donné beaucoup de vocations religieuses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que disent les chrétiens, c'est en disant, en étant dans un pays où la foi est si présente au quotidien, ça nous a donné, nous aussi, envie, finalement, de creuser, d'apprendre, etc. Donc, il lance en 2012 l'Institut Mouafaka, avec pas mal de profs d'universités européennes, mais aussi africaines, donc énormément de profs des universités catholiques et protestantes de toute l'Afrique, qui vont venir donner des cours sur cette question, sur plein de questions. D'ailleurs, ça peut être aussi bien la théologie chrétienne, la christologie, ou comment faire un culte, etc., la théologie protestante, etc. Et ils travaillent souvent en binôme, un catholique et un protestant, ce qui est très dur, c'est que ça les... Même ils le disent, ça nous déplace, nous, dans notre foi, mais on a besoin d'être déplacés parce que les gens dans la migration sont déplacés. Donc ils travaillent toute cette question, cette notion du déplacement, et aussi toute la rencontre avec l'islam, donc avec beaucoup de chercheurs d'islamologues, d'anthropologues et de sociologues qui viennent expliquer l'histoire de l'islam, le monde de l'islam, la théologie musulmane, si on peut dire qu'il y a une théologie musulmane. Et on travaille des textes du Coran de la même manière, avec la même exégèse qu'on travaillerait des textes de la Bible. Donc dans cet institut, il est en train de se construire ce que j'appelle une théologie de la pluralité religieuse. Alors ça, c'était le troisième temps de ma communication. C'est-à-dire que petit à petit, une théologie qui s'est adaptée dans les églises de migrants, mais aussi une réflexion théologique qui est arrivée grâce à la migration. Cette réflexion théologique sur la pluralité religieuse, cette théologie de la pluralité religieuse, elle arrive parce qu'on est confrontés les uns et les autres à une religiosité différente. Donc ça, on va plus loin du coup que le dialogue ou que le débat interreligieux. Là, on est avec des musulmans et des chrétiens qui vont chercher ensemble à faire une théologie pensée en commun. Alors c'est aussi, il faut voir aussi la question des sciences religieuses au Maroc. Les départements de sciences religieuses font de la théologie, font de l'histoire, un petit peu des religions, mais ne font surtout pas de sciences humaines et sociales. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'analyse critique des religions dans les départements et dans les universités au Maroc. Donc c'est un des seuls lieux au Maroc où certains professeurs islamologues ou musulmans qui enseignent les religions ailleurs disent « je peux ici faire un travail d'analyse critique, un travail sur les textes, un travail sur les contextes, qu'on ne peut pas faire ailleurs dans les universités marocaines. Alors toute la question, effectivement, c'est le dernier point que j'évoquerai, c'est en quoi finalement toute cette arrivée des migrants et d'une religion différente, on peut faire le parallèle avec l'Europe et la question de l'islam en Europe qui arrive avec l'immigration et qui a posé tout un débat aussi, etc. Sauf qu'on n'est pas allé sur une réflexion d'un débat théologique, on est allé sur une réflexion d'une question de dialogue, de vivre ensemble, etc. Là, on est dans une phase où, comme il faut aller vite, comme en plus il y a une politique migratoire qui permet aux gens de s'installer, on essaye de construire ensemble une théologie un petit peu différente. Et de cette construction aussi, tout simplement parce que le Maroc est dans une phase aussi où toutes ces migrations réveillent forcément le désir pour les chrétiens marocains, parce que même si la pluralité religieuse n'est que pour les étrangers, il y a quand même des chrétiens au Maroc qui ne peuvent pas vivre leur religion, donc ils ne peuvent pas aller au culte, ils ne peuvent pas aller à la messe, et du coup ils ne peuvent pas se baptiser, etc. Ils font tout ça de manière cachée en faisant venir des prêtres ou des pasteurs à la maison, etc. Donc il y a tout un ensemble, toute une communauté chrétienne marocaine en fait, qui se dit tous ces chrétiens arrivent d'Afrique, réveillent un petit peu ce christianisme, mais nous on ne peut pas, on ne peut même pas aller suivre des cours de théologie dans un institut œcuménique, etc., sous peine de risquer de se faire arrêter. Donc les professeurs peuvent venir enseigner, mais des Marocains, citoyens marocains, ne peuvent pas venir suivre des cours. C'est un petit peu compliqué quand même. Alors ça commence à se mettre en place. Donc du coup, c'est vraiment comment l'immigration, et avec ce qu'elles amènent aussi, elles requestionnent la pluralité religieuse du Maroc, en fait. Et cet institut, si on voit le cheminement, si on voit sa construction, on voit bien que les instances religieuses marocaines, elles ne sont pas loin. Elles n'ont pas empêché de le faire. Elles l'ont laissé faire. Elles l'ont laissé faire en contrôlant tout le temps ce qui se passait pour pas que ça déborde non plus. Elles contrôlent parce qu'elles se posent, elles aussi, la question de ce qu'on va faire au Maroc, ce que va devenir le Maroc par rapport à la liberté religieuse. D'un côté, il y a ces chrétiens qui redemandent, qui ont été reçus le mois dernier au Conseil national des droits de l'homme, ces chrétiens marocains qui disent, ok, les églises sont pleines et tout, machin, mais nous, on ne peut toujours pas vivre librement notre foi. Et de l'autre côté, il y a aussi toute une société marocaine, beaucoup de citoyens qui voudraient vivre sans religion. Et ces gens-là, ils sont là aussi pour porter sur le devant de la scène la question de la liberté religieuse. La question de la liberté religieuse, c'est celle de choisir sa religion ou de choisir de ne pas être croyant aussi. Donc on est dans cette phase au Maroc où les migrations, elles ont questionné quelque chose qui est assez sensible aussi, cette question de l'appartenance religieuse et cette question de la non-appartenance religieuse, cette question des libertés, cette question qui est portée par la société civile aujourd'hui et par les quelques associations au Maroc, celle de la liberté religieuse ou celle de la liberté du non-jeûner en période de Ramadan, etc., qu'on voit ressurgir un petit peu partout. Voilà un petit peu dans le déroulement, dans le temps, de voir comment par le bas on peut montrer comment les migrations peuvent réveiller aussi des dynamiques et des problématiques qui sont d'ordre national. Voilà.
Merci.
C'est la suite des propositions.
Alors, avant d'ouvrir aux questions et aux discussions, je voulais peut-être soulever un ou deux points. Donc, tous les deux, vous montrez cette construction de la personne au travers de la mobilité qui part avec un héritage religieux, culturel, économique, éventuellement communautaire, et qui va évoluer, se faire aussi en différence et en rupture dans le temps et dans l'espace, du coup, et parce qu'aussi l'environnement et le monde change autour et en même temps va contribuer à ce changement. Et c'est deux petits points que je voudrais souligner et qui sont en même temps des questions à vous deux avant d'ouvrir aux questions. Donc là, on l'a surtout vu à travers la présentation de Sophie, où tu insistes bien sur l'impact de cette, on peut dire, communauté transnationale et de cette évolution théologique sur le Maroc lui-même, y compris, tu parles quand même des pouvoirs publics, puisque tu montres que finalement ça leur pose question et qu'ils s'interrogent sur la manière d'agir et finalement vont quand même prendre des décisions. Donc tu montres un rôle sur la société d'accueil, d'évolution, Est-ce que tu as travaillé sur la question d'une influence éventuellement de cette évolution théologique dans les sociétés de départ et sur le chemin? Et une question parallèle à Thomas. Toi, tu travailles justement sur, ou en tout cas, tu envisages comme cette troisième étape sur les actions de développement de ces immigrés dans le... Alors, on peut pas... Il est difficile de dire pays d'origine, en tout cas, du point de départ de cette communauté. Est-ce que, justement, on voit un impact sur cette communauté d'origine au travers des actions de développement? Est-ce que ça va être vraiment des actions qui vont impliquer une évolution dans les villages, qui sont parfois devenus des villes, comme tu l'as dit? Ou alors, est-ce que c'est surtout une action de promotion plutôt individuelle ou collective? Enfin, voilà. Et peut-être sur cette question du transnationalisme par le bas et par le haut, et du coup du rôle aussi des pouvoirs publics. Je ne suis pas sûre qu'on puisse finalement tant séparer transnationalisme par le bas, par le haut. Donc toi, tu montres, Sophie, qu'il y a vraiment une évolution au départ qui était par les personnes, donc on pourrait dire par le bas, mais où il y a une interaction tout le temps, finalement, là aussi, avec les pouvoirs publics.
Et pas que les pouvoirs publics, oui. Les églises aussi.
Voilà, exactement. Et Thomas aussi, tu montres que finalement, les pouvoirs publics vont orienter les actions de développement. Mais finalement, est-ce que ces immigrés eux-mêmes, par leur présence, par leur action antérieure, n'ont pas influencé le haut, disons, qui ensuite, et voilà, on a cette interaction finalement perpétuelle entre les deux. Je ne sais pas si vous répondez tout de suite ou si on ouvre tout de suite.
Oui, je pense qu'après les organismes internationaux, comme les églises ou comme la Banque mondiale, ou comme Caritas, j'allais dire, on s'adapte aussi à ce qui fonctionne. Et les migrants, ils font fonctionner les modèles. Ça, c'est sûr qu'ils sont porteurs de quelque chose, mais après, ils mettent en place des modèles qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, qui après seront repris ou accompagnés. C'est sûr qu'ils sont promoteurs quand même de quelque chose. Enfin, les mobilités, on le dira, on ne cessera de le dire les uns et les autres, c'est une véritable ressource pour les pays, et ça, parce que ça porte aussi, évidemment, des constructions différentes, un regard différent, et en l'occurrence, moi, sur la question religieuse, oui, c'est chaque fois, effectivement, les gens, ils arrivent avec une façon de vivre leur religion qui n'est pas toujours forcément adaptée, mais qu'ils adaptent même, et ces adaptations-là sont travaillées pour faire changer un petit peu la religion. Bon, sur les questions religieuses, il y avait un pasteur qui disait « J'avais l'impression d'être au premier temps biblique et de reconstruire le christianisme. » Parce que la religion, elle a toujours été un mouvement aussi, en fait. C'est quand, c'est quand elle s'installe qu'elle devient problème. Quand elle ne bouge plus, quand elle se sécularise, effectivement, c'est dans ces moments-là où il va y avoir des questions de conflits, de pouvoir, de terre, etc. Mais les religions à la base, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, est basé que sur des parcours de gens qui bougent. Elles se sont toutes construites en marchant, quoi. Donc le fait qu'à un moment donné, il y a encore des moments comme ça, via l'immigration, qui re-questionnent la religion, elle re-questionne évidemment les instances religieuses très haut. Et le pape François est le premier promoteur de la migration à l'heure actuelle. Et je pense que cette théologie de la migration, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, parce que, attendez, je l'ai vue, je l'ai observée, et puis après je suis quand même allée voir, et ça a commencé à être théorisé en Europe dans les années 90 quand même, mais c'est pas allé tellement plus loin. Et donc oui, il y a des choses qui se font et qui réinterrogent les institutions, les hiérarchies religieuses. Bon, j'avais montré dans le mouridisme par rapport à la confrérie, et de montrer comment les migrants ont transformé la hiérarchie aussi, et les événements religieux et les cultes, etc. Dans le christianisme, c'est très visible. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont formés à Mouafaka ou qui ont vécu des parcours de migration reviennent aussi dans leur pays d'origine avec des modèles religieux différents dans tous les cas. Alors, ils ne sont pas toujours bien accueillis à leur modèle religieux. Mais en tout cas, ils re-questionnent les modèles religieux des pays d'origine. Et ce qui se dit au Maroc, ce n'est pas le cas partout, mais où il y a une théologie qui est en construction, c'est aussi, ça revient dans les universités catholiques et protestantes du reste de l'Afrique, cette théologie-là, cette manière de construire, cette manière de prendre en compte l'islam. Parce que tout ce qui se passe là, c'est que tous ces chrétiens qui arrivent, alors ceux qui sont migrants et les autres leaders qui viennent dans le cadre d'un autre parcours qui s'appelle le certificat de dialogue interculturel interreligieux, tous ces gens-là qui viennent, ils reviennent après dans leurs églises et dans leurs institutions dans les pays d'origine. Et eux, ils avaient vraiment ce besoin de connaissance de l'islam qu'ils n'avaient pas. Donc arriver et se former à l'islam, c'est aussi revenir avec une autre vision de l'islam. Si les musulmans ont une vision, des fois, des croisades, une vision guerrière des chrétiens, inversement, c'est la même chose. Les chrétiens, ils ont une vision des musulmans dans certains pays où bon, ce qu'ils voient de l'islam, c'est une petite partie très radicalisée et aussi ce qu'on entend sur la scène médiatique. Donc forcément, ils viennent vivre au Maroc d'autres expériences et apprendre l'islam, l'islamologie, l'histoire de l'islam, etc. Et ils reviennent avec d'autres façons de faire. Alors, je ne dis pas qu'ils ont en tout cas des volontés, quand ils reviennent dans des pays où il y a des guerres interreligieuses, de vivre les choses autrement. Ce n'est pas gagné encore, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà. Ça fait, il y a des modèles qui circulent, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, pour répondre à ta question sur les liens entre le haut et le bas, effectivement, enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire il y a une dynamique effectivement spontanée où on est passé graduellement de petites actions qui étaient très en lien avec des pratiques collectives assez habituelles dans les villages, c'est-à-dire voilà, au moment des moissons, il fallait participer à l'effort collectif des moissons. Alors les migrants, quand ils ne peuvent plus participer physiquement par leur force de travail aux activités collectives, eh ben, ils envoient de l'argent. Donc ça a commencé comme ça finalement. Hein. Il faut refaire une partie de la mosquée. Bon, ben, ils ne sont pas là, mais ils vont envoyer de l'argent pour acheter les matériaux. Des petites choses comme ça, c'est comme ça que ça démarre. Et puis ensuite, ils sont passés à ces initiatives de développement parce que ça correspondait à un besoin qui leur était propre. Et effectivement, ça a commencé. Les premières traces, on les voit assez tôt. Même moi, les premiers projets que j'ai vus au Maroc, c'était même encore avant en Inde, c'est les années 50. Hein, mais c'était vraiment très ponctuel, très spontané, ici et là. Et tout ça n'a pu se vraiment gagner en importance, en volume et en cohérence que parce qu'il y a des pouvoirs publics et des politiques publiques qui se sont greffés là-dessus, sur cette dynamique-là. Voilà, qui ont donné un cadre, des ressources, une légitimité, qui a permis à des individus de développer des stratégies. Ça arrivait... Alors, dire quel est l'impact de ces initiatives de migrants là-dedans, c'est très compliqué parce que ça participe d'une trajectoire de développement d'ensemble du Maroc ou de l'Algérie ou de l'Inde qui se faisait de toute façon. Donc c'est pas que dans les villages de migrants que ça se passe. Mais par exemple, ça vient se greffer avec une dynamique sociologique d'une émergence d'une élite locale qui est en train de prendre forme parce que vous avez toute une génération qui a été formée d'anciens cadres de l'UNEM du Maroc qui ont été formés dans les universités dans les années 70-80, qui se retrouvent diplômés, qui se retrouvent enseignants, instituteurs dans les petites écoles, très souvent c'est des enseignants, et qui saisissent cette opportunité de l'ouverture de la société civile pour valoriser autrement leurs compétences et se mettre à être ce qu'on appelle les entrepreneurs du développement. Et qui sont là, qui jouent les intermédiaires entre pouvoirs publics locaux, la mairie, l'association de migrants, telle ONG, voilà. Et ils savent très bien faire ça. Et donc il y a comme ça une dynamique, voilà, qui est indépendante de ce qui se passe en migration, mais tout ça converge. Hein, une nouvelle sociologie de l'élite, des élites locales marocaines, des intérêts supérieurs de la Banque mondiale, avec une nouvelle... Ce nouveau cadre de la pensée du développement local développé au sein des instances internationales ont émergé en critique de la première génération des plans d'ajustement structurel qui ont été développés dans les années 70 et début des années 80 et qui, elles, cette première génération, se focalisait sur les grandes structures macroéconomiques des pays. Hein, donc libéraliser les échanges commerciaux, la monnaie, voilà, créer une bourse, des choses comme ça, un marché financier. Donc c'était ça. Et on a vu ce que ça a donné avec des crises très importantes, une des écarts entre riches et pauvres qui ont explosé, etc. Et donc, il y a eu toute une génération d'économistes qui ont argumenté en disant qu'il faut reprendre les choses à la base et faire du développement par le bas, en transformant les structures sociales publiques et privées en une sorte de marché dans lequel différents acteurs vont rentrer en compétition pour des mannes financières. Voilà. Et c'est ce modèle-là qui est appliqué dans les pays de développement et dans laquelle vient se greffer ces dynamiques qui étaient spontanées, à part, migratoires. Voilà. Donc effectivement, il faut penser ça comme des points de rencontre, des intersections qui prennent forme à un moment ou à un autre. Voilà.
Je vais circuler avec mon micro.
Oui.
Alors, Jean-Robert.
Oui, oui.
Alors, chacun se présente peut-être avant.
Oui, Jean-Robert, oui. Oui, moi, je crois que la construction d'un espace transnational ou d'espaces transnationaux va aussi à l'encontre de certaines politiques publiques. Il s'est vraiment développé contre l'invention des frontières politiques et surtout humaines de l'Europe à un moment. Et il y a bien sûr ces projets, c'est très intéressant ce travail de terrain sur les projets de développement, mais c'est quelque chose qui a aussi pris d'autres formes. Par exemple, le développement extraordinaire de la binationalité a favorisé l'irrigation, le développement d'un espace transnational qui se moque, si on peut le dire, de l'invention des frontières de l'Europe. Et c'est très frappant par rapport au Maghreb, peut-être plus que par rapport à d'autres pays, puisqu'il y a des liens très anciens. On pense qu'il y a quand même plusieurs millions maintenant de binationaux franco-maghrébins. C'est un pays... même la politique française aujourd'hui commence à se rendre compte qu'il faut qu'elle traite le Maghreb un peu autrement que n'importe quel pays du Sud. Je crois aussi qu'il y a quelque chose auquel je pensais quand tu parlais, c'était... ceux qui, comme moi, ont connu un espace mixte universitaire franco-maghrébin, plus que d'ailleurs franco-algérien seulement, savent que cet espace existe toujours. Il y a énormément de colloques auxquels je me suis retrouvé en Algérie, où un tiers ou la moitié des communicants étaient des franco-algériens ou des franco-marocains ou des gens qui vivaient, exerçaient en France, mais avaient des liens... Tosi en est un exemple extraordinaire, quoi, à cheval entre deux pays. Et ça, c'est une expérience ancienne qui est frappante, qui est peut-être intéressante de comparer avec ces constructions par le bas d'espaces transnationaux autour du projet de développement. Ouais. Concernant l'aspect religieux, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai bien connu, par exemple, Abdou Filali Ansari, ex-patron de la fondation Al-Saoud, et qui ne cachait pas qu'il était proche du grec. La revue Prologue, quand on regardait entre les lignes, on voyait bien qu'il y avait un esprit de tolérance religieuse extrême, et avec Filali Ansari, il disait, quelquefois sans se cacher, moi je l'ai vu un jour se faire injurier par une universitaire saoudienne, parce qu'il avait fait une conférence qui appelait « Vérité du chercheur et vérité du croyant », où effectivement on était loin d'une diffusion d'un discours monolithique, et lui disait en privé souvent, je crois qu'il faut revenir à l'origine des religions, non pas pour faire du fondamentalisme, parce que quand on vient à l'origine des messages religieux, au noyau dur des messages religieux, on s'aperçoit comment ils sont semblables et comment l'histoire les a au contraire créés dissemblables. Donc il y avait des gens comme ça. Plusieurs personnes, l'ancien directeur de la BNRM, était complètement dans les revues, dans les groupes de Grecs depuis longtemps. Hein.
C'est ce groupe-là, quand je parle.
Oui, oui. Mais depuis longtemps, c'est avant que la migration se pose.
C'est Jacques Lefrain, c'est toute cette clique-là.
Oui, oui, ça
mais
c'était.
Il est investi du coup là-dedans aussi, dans ce même institut. C'est ce même.
Oui, oui. Alors, quelquefois, il y a eu des incompréhensions. Moi, un ami très ancien qui avait été conseiller économique de Hassan II, qui était un type qui a fait énormément pour le développement du judaïsme marocain et la protection du judaïsme marocain, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour que, justement, les Israéliens d'origine marocaine puissent venir. Et comme vous le savez, ils viennent très, très nombreux. Ils investissent aussi beaucoup. En même temps, il était énervé. Plusieurs fois, il m'a dit, mais le bras, je suis sûr qu'il profite de tous ces trucs-là pour faire du prosélytisme. Alors, je dis, ah bon...
J'avais confiance aux catholiques complètement.
Voilà. Ça, j'étais très surpris, mais il me l'a sorti à plusieurs reprises. Il y avait une méfiance que je n'avais pas du tout connue en Algérie de cette façon-là, par exemple. Donc, c'est des choses... je crois que la question de l'accueil des Juifs d'origine marocaine est quand même aussi dans le paysage un précédent ou un modèle ou je ne sais pas quoi qui a peut-être servi à avoir plus de tolérance, et en même temps il y a une intolérance que vous indiquiez fortement. Un Marocain chrétien ne peut pas s'exprimer, alors qu'en Algérie il peut sans problème aller à la messe ou des choses comme ça. Il y avait même des prêtres binationaux franco-algériens qui étaient d'origine marocaine, etc. Ça ne posait aucune difficulté particulière. Et le nouveau ministre des Abous en Algérie a même tenu des discours extrêmement tolérants, qui n'ont pas été suivis des faits, quand il disait qu'il voulait réouvrir une synagogue au Maroc, qui restait une petite communauté qui était en très bon rapport avec... les pouvoirs publics, alors qu'officiellement il n'y a assez personne, etc. Enfin, c'était assez curieux. Et il a fait allusion aussi aux convertis. Il dit qu'ils étaient contre l'action des évangéliques, qui faisaient sans nuance du prosélytisme, mais qui respectaient les Algériens musulmans qui allaient vers l'Église catholique en très petit nombre, parce que l'Église respectait leur lien avec le pays, etc. Mais ça, c'est des discours qui ne se tenaient pas il y a 5 ans. Quoi. C'est des choses étranges.
C'est plutôt long, tout ça. Alors, la question des migrations chrétiennes, elle arrive sur ce temps long, effectivement. Mais du coup, maintenant, le christianisme par le bas, là, effectivement, qui était du coup peut-être moins taxé d'être celui des dominants aussi. Ça, c'est pas inintéressant dans le discours aussi religieux au Maroc. Et monsieur Filali Ansari est toujours sans pitié quand il parle de l'éducation musulmane au Maroc. Donc il y a plein de gens effectivement qui sont très engagés, etc. Et toute cette, ce que vous avez dit sur les couples mixtes aussi, parce que ça fait partie de ces réseaux qui portent ces questions-là, effectivement. Ces réseaux mixtes binationaux et biculturels aussi, et qui ont aussi... qui sont souvent laïcs, mais qui ont souvent deux religions différentes d'origine, donc, et qui font avancer ces questions-là au Maroc, hein, c'est vrai. Sur la question des Juifs, ça a été... c'est effectivement les seuls qui peuvent être marocains et juifs, enfin c'est les seuls, on peut dire, dans le statut religieux des Marocains, tout le monde est musulman, sauf les juifs qui peuvent être...
Qui restent sujets du roi.
Sauf les juifs qui, effectivement, peuvent être juifs. Donc c'est vraiment un statut particulier. Et c'est vrai que c'est énorme quand même ce qui se fait. J'ai fait soutenir un mémoire de licence de théologie la semaine dernière d'un étudiant camerounais qui a travaillé sur une fête juive au Maroc. Donc non, c'est et pareil dans cet institut, il y a aussi des cours sur le judaïsme. C'est quelque chose qui est intéressant, mais ça avance pas plus. Voilà, on est dans cette période où le judaïsme, il y a beaucoup de retours, des pèlerinages, donc aussi. Et il y a des associations qui sont créées par les enfants de ceux qui sont partis, donc ils vivent maintenant ou en Israël ou aux États-Unis, qui ont créé des associations pour essayer de faire vivre le judaïsme au Maroc. Mais c'est souvent des Lubavitch. Non, parce que ce n'était pas des Lubavitch quand ils sont partis, mais en migration, ils ont changé aussi, finalement, à l'intérieur de la famille juive, ils sont devenus Lubavitch, et c'est eux qui ont un petit peu repris ces associations au Maroc. Et donc, par contre, ils travaillent beaucoup à la patrimonialisation de la culture juive, plus qu'à la liberté religieuse aujourd'hui. Donc, il n'y a pas tant que ça, finalement, de juifs qui se réinstallent au Maroc. Mais il y a une communauté qui est vieillissante, mais qui se maintient quand même. Il y a toujours le rabbin de Rabat qui est là. Il y a toujours... il y a même un musée maintenant du judaïsme à Casa qui est vachement bien aussi. Oui, voilà. Et des cimetières juifs sont en pleine réflexion aujourd'hui. Donc... voilà, il y a des pèlerinages organisés sur les sites, vraiment sur les sites dans le sud, quoi, hein, sur Zagora, enfin, vraiment dans les anciennes synagogues qui dataient. de l'époque pré-islamique, donc à l'époque où berbères et, juifs étaient les seules populations présentes au Maroc. Donc on est dans une histoire très très longue. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ils sont ensemble, je veux dire, dans cette construction aussi, dans cette pensée théologique. Ils y participent aussi pour voir comment construire une théologie autrement. Ça peut permettre aussi au Maroc d'accepter les différences religieuses. Je pense qu'ils ont tous un projet religieux. Ouais, que ce soit les juifs ou les catholiques, j'ai beau me dire je fais pas de différence, etc., ou les musulmans, quand ils sont dans un pays, ils sont pas nets, c'est vrai, ils ont raison, vos collègues, il y a un projet religieux derrière, même pour ceux qui partent dans le monastère de Middelt, et toutes les sœurs qui sont dans les campagnes, elles font pas de prosélytisme, mais elles se servent de cette manière de vivre, un petit peu de ces sœurs franciscaines, c'est beaucoup les sœurs franciscaines qui sont là-bas, moi je suis partie dans les montagnes à leur rencontre et tout ça, en fait elles font pas de prosélytisme. Mais elles ont une présence quand même, avec des croix, avec des, même si c'est dans des habitats familiers, etc. Elles font quand même vivre le christianisme.
La présence, c'est ouais. Une théologie de la présence.
Bah oui, ça c'est chez les franciscains, c'est très important.
Oui, ouais. Bien plus tard, ouais. Au niveau des petites sœurs de Foucault.
Voilà, bah oui, oui, c'est les mêmes.
C'est le même, la c'est vie, France, c'est Afrique. Ouais. Périguerre, c'est Périguerre. En milieu musulman, ouais, ouais. Comme elle l'applique en milieu ouvrier dans les années 40-50.
Exactement.
C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir théoriquement avec le prosélytisme ou avec la défense d'une religion.
Oui, mais quand l'Église a senti à la période des années 50 du 19e siècle, je veux dire qu'avec l'industrialisation, les chrétiens leur échappaient aussi, effectivement, ils ont fait ça. Ils sont venus, etc. Et c'est de là que vient aussi tout le rapport entre l'Église et l'immigration. Hein, je vous dis, c'est de là que ça se construit, toutes les revues après, etc. On peut pas... On a du mal à le savoir et à le lire, mais toute la sociologie d'immigration a été très chrétienne au départ, dans son implantation en Europe. Et alors, c'est vraiment très particulier, le terrain français et le catholicisme en France, et cette théologie de la présence, elle est très française, en fait. On le retrouve pas partout. Voilà. Mais par contre, c'est des modèles qu'on retrouve dans les colonies françaises. Et ça s'est fait à peu près à la même période. Et donc là, c'était Foucault, Périguerre et toute la clique. Et donc, c'est vrai que c'est une théologie qui persiste, mais qui n'est pas cette même théologie en mouvement qui est apportée par l'immigration, mais qui se rencontre quand même, qui se rencontre sur cette question de la présence au Maroc. Et qu'est-ce qu'on va faire du christianisme au Maroc? Quel tournant le christianisme il peut prendre aujourd'hui pour que... Le projet religieux réel, concret derrière, c'est que le christianisme soit accepté comme une religion pour les Marocains aussi. Il ne faut pas se leurrer, hein. Forcément. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, ce ne sera jamais dit ouvertement, mais c'est de plus en plus, on le lit comme ça, quoi. C'est pas... Et notamment l'influence de tous ceux qui sont passés par l'Algérie. Puis il y a même, du coup, à Middelt, c'est le même... C'est le monastère... Toumeline qui a été... Non, pas Toumeline, non. Tibérine, ouais. Oui, parce qu'à Toumeline aussi. C'est Tibérine. Donc, les derniers moines, enfin, le dernier qui est là-bas, Jean-Pierre, enfin, voilà. Donc, il y a toute une continuité, effectivement. Voilà, mais qui était très paisible. Mais du coup, avec l'émigration et tout ce christianisme qui arrive, il faut réfléchir, quoi. Il faut y aller, parce que sinon, c'est toute l'Église dans cette terre-là qui va partir en péril, quoi. Donc, il faut arriver à surfer sur la vague, on va dire... plus communément, pour que ce soit accepté, pour que ça produise quelques effets qui puissent se servir au christianisme. Sinon, c'est pas intéressant non plus. Quoi.
Je vais répondre, ce qui m'intéressait dans ton... Enfin, tu as soulevé en fait la pluralité de ces formes de transnationalisme, hein, qu'elles soient académiques, qu'elles soient spontanées, villageoises, ou qu'elles soient extra-communautaires aussi, hein, simplement familiales, avec...
Voilà.
C'est ce que je pensais, la binationalité, voilà, hein, qui concerne plutôt des réseaux familiaux, finalement, hein, la circulation entre ici et là-bas. Et à mon avis, l'un des points de rencontre entre ces différents transnationalismes, c'est ce que Silverstein appelle, hein, c'est un anthropologue qui a travaillé sur les Kabyles en France, et qui appelle l'espace transpolitique. C'est-à-dire que ce qui explique pourquoi, quand il y a un événement en Kabylie, ça se répercute en France, immédiatement, il y a des manifestations, etc. Et on voit bien, enfin, il explique très bien le fait que toute la construction du mythe kabyle à travers les travaux des chercheurs franco-algériens, que ce soit dans le groupe d'études berbères de Vincennes, voilà, il y a toute une partie de l'identité kabyle qui s'est construite en France. Hein, et donc le mouvement revendicatif kabyle aussi s'est construit en France. pour une très large partie. Et, mais en même temps, quand la base de ces mouvements, de ces manifestations, c'est les associations villageoises. Hein, quand on le voit à Marseille qui descendent dans la rue, c'est les associations villageoises qui sont très souvent derrière, qui forment un peu la masse. De ces réseaux-là. Voilà, et donc il y a ces points de rencontre-là qui se font à des événements très ponctuels, qui sont des événements de crise, et qui mettent vraiment en lumière des choses qui sinon sont complètement invisibles, sont complètement latentes. Pour sortir de l'exemple kabyle, on a vu ça aussi en 1984, lors de du début de conflit entre l'Inde et le Pendjab. Où des indépendantistes sikhs qui demandaient un état sikh au Punjab se sont emparés du Vatican du sikhisme, c'est-à-dire le Amritsar, et l'armée indienne est venue les déloger dans les locaux même du Temple Doré. Et donc ça a généré des vagues de manifestations colossales, mais pas en Inde, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Et ça a créé tout un nouveau, ça a complètement révolutionné le tissu associatif local. Mais ces manifestations, à l'origine, sont complètement spontanées. C'est le fait des petits temples locaux qui ont affrété des bus pour emmener les gens manifester à Londres. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu un encadrement par un tissu associatif. Et effectivement, il y a eu des universitaires qui ont joué un rôle d'encadrement, de théorisation et de... Voilà, et ça, c'est vraiment dans ces moments de crise qu'il y a ces convergences entre ces différents transsocialismes se produisent.
Ouais. C'était plutôt peut-être des remarques. Déjà, pour Sophie,
merci à tous deux de nous avoir comme ça éclairés sur ces questions qui nous taraudent de manière différente. Et alors. Sophie, à t'écouter, à nous, et finalement, on comprend combien cette chrétienté pose une vieille question qui est celle de la place de la chrétienté sur le sol et dans la société islamique, et en même temps, combien aujourd'hui elle est complètement revisitée en profondeur avec des enjeux, comme tu l'as dit, de la place de la chrétienté dans la société marocaine et chez les Marocains, le Marocain chrétien, etc. Et comme tu l'as dit aussi, la place de la laïcité. Et à t'écouter, donc je me disais, finalement, quand tu nous as présenté ton travail, tu nous l'as fait en croisant deux grandes dimensions, deux grands champs, l'anthropologie du religieux et la sociologie des migrations. Et toujours en t'écoutant, je me dis, mais il faudrait y associer une socio ou une anthropologie de la mobilisation, puisque ça s'accompagne aussi aujourd'hui, non seulement de l'ouverture de toute la société marocaine et du gouvernement marocain sur on va s'ouvrir, on va régulariser, on va mettre en place peu ou prou une politique d'immigration qui est nouvelle, et en même temps on est dans ce fort développement de la société civile qui était déjà très présent avant 2011, mais qui a vraiment pris, on le sait, un fort développement et du coup une revendication sur ces questions fondamentales de la laïcité. Voilà, donc en t'écoutant, tout simplement cette remarque sur réintroduire une sociologie de la mobilisation qui aussi aujourd'hui au Maroc a des enjeux très profonds. Après, Thomas, alors je m'excuse Thomas, je n'ai pas assisté, j'ai manqué le début de ton intervention. Donc merci de nous permettre de revenir sur une théorisation du transnational. Et au départ, j'ai bien compris, tu nous as finalement décrit des temps forts de cette pratique transnationale, le départ, l'arrivée, et avant même que tu parles de la suite, qui est finalement l'intégration, l'arrivée dans la société d'accueil, l'intégration, etc., je me suis posé la question du retour. Quid dans ta théorisation de la question du retour? Et la deuxième chose qui m'a un petit peu gênée, c'est le recours systématique et profond dans ta théorisation de la pratique transnationale de la figure archétypale du villageois, de l'immigré villageois, expatrié villageois. Alors quelle place dans ta théorisation à l'urbain, l'émigré urbain qui vit dans ces grandes villes que sont Dakar, Tunis et autres, et qui n'a pas derrière une communauté villageoise et qui va partir pourtant, qui va être pris certainement dans un don, comme tout ce que tu décris, pris aussi dans une espèce de communauté politique et une revendication à une communauté politique, mais pas forcément villageoise, qui peut être aussi finalement le départ comme une contestation de ce qui se fait dans le pays au niveau national. Enfin voilà, comment finalement, si on change ou si on ajoute à ta théorisation la figure de l'expatrié, immigré, émigré, urbain, qu'est-ce que ça change dans tout ce que tu nous as dit? Y compris le dernier passage sur l'association villageoise, mais en l'occurrence là qui ne serait pas association villageoise, mais qui serait l'association tout court. Tu en as parlé aussi. Alors ils ne sont pas forcément ces urbains étudiants, qualifiés ou autres, mais ils appartiennent à une grande ville et ils sont loin d'un rattachement villageois. Pour casser un peu cet archétype. Ouais. De l'immigré qui vient de son fin fond de sa ville, de son village natal, qui ravive cette communauté villageoise, y compris dans le transnationalisme. Voilà, je suis désolée, mais je ne sais plus.
Alors, on va peut-être ajouter les questions de Virginie, qui sont en partie liées. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi réfléchir. Ah, il y a des liens.
Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. Moi, j'avais des questions un peu qui allaient dans le sens de Sylvie, c'est-à-dire je me demandais aussi un petit peu quelle était la différence. Est-ce que tu avais pu observer dans ton travail justement des différences entre des formes de transnationalisme par rapport à cette question du développement, entre visiblement les espaces ruraux que tu étudies et d'autres espaces urbains. Et je me demandais aussi si ces investissements ruraux étaient toujours situés dans les mêmes espaces, vraiment dans les espaces de départ, parce qu'on sait aussi parfois quand il y a des retours. Ces retours ne sont pas forcément dans les espaces de départ et que les investissements peuvent aussi se faire ailleurs. Je me demandais aussi s'il y avait au Maroc des mesures d'accompagnement en fait, au transnationalisme pour le développement, comme il en existe ailleurs, et je pense en particulier au cas mexicain, le cas que tu connais peut-être, des accompagnements dos por uno, tres por uno, c'est-à-dire l'accompagnement par l'État ou les municipalités. Au développement local qui au Mexique en tout cas sont absolument fondamentaux pour comprendre en fait le saut qui a été fait dans le développement d'un certain nombre de projets en milieu rural. Et je me demandais aussi est-ce que existe aussi au Maroc des formes finalement d'obligation qui existent assez fortement dans les communautés indigènes notamment, où en fait l'investissement dans l'espace d'origine, ça fait aussi partie d'un système d'obligations collectives dans le village. Il y a des charges collectives qui doivent être prises en charge. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve au Maroc ou pas? Et au Mexique, c'est des choses qui sont très ambivalentes, parce qu'à la fois les charges, c'est aussi ce qui fait qu'on va être obligé de revenir à un moment et d'investir dans le village, mais c'est aussi ce qui va faire que certains vont justement couper les ponts avec les villages, parce que justement ils ne veulent pas revenir, parce que prendre une charge, ça veut dire aussi revenir pendant un temps long, pendant un an parfois, et que ça peut avoir des effets tout à fait contradictoires sur finalement le rapport des migrants qui sont partis à leur origine. Et tu disais donc, tu posais cette question fondamentale qui est toujours jamais résolue de finalement le transnationalisme sur la durée et sur les générations. Donc j'avais l'impression que ce que tu décrivais, c'était un petit peu des formes de transnationalisme parmi des migrants partis à l'époque d'immigration de travail. Qu'en est-il de générations plus jeunes? Est-ce qu'il y a des formes de relais qui sont éventuellement prises par des secondes générations de ceux qui ont investi, j'imagine, depuis une vingtaine d'années? Et quels sont les profils, en fait, de ceux qui continuent à s'engager? Et est-ce que, par exemple, comme l'ont montré des travaux de Portes, mais d'autres aussi, finalement, le transnationalisme va complètement de pair avec des dynamiques d'intégration, et ceux qui s'engagent le plus, c'est aussi souvent ceux qui ont mieux réussi dans les espaces de destination. Et puis j'avais quelques questions pour toi, Sophie, mais je connais rien du tout à ce Ouais, mais ce champ religieux-là et ces espaces-là, je ne connais pas du tout. Et alors, je vois sur les photos, on voit sur les photos ces migrants, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur profil, enfin, les régions d'origine de ces migrants-là? Est-ce que c'est des origines... et quelles étaient leurs pratiques religieuses préalables à la migration? Parce que tu dis... La migration, c'est le butinage, c'est aussi le moment où on peut changer de religion. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des changements de religion par la migration? Et comment on change de religion en migration? Et de quoi à quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as des mourides qui deviennent chrétiens? Enfin, ça m'intéresse, cette histoire du changement, parce que tu l'as dit, hein, tu as dit on peut changer. Alors, et qu'est-ce qu'apportent en fait ces groupes, évangéliques éventuellement si on change par rapport au... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi, quand ce genre d'histoire arrive? Et j'ai été interpellée par une chose que tu as dit, donc tu as bien insisté sur cette religion qui émerge par le bas, etc. Et à un moment donné, tu dis, mais donc, je ne sais plus en quelle année, le Maroc expulse 120 prêtres américains. Et j'ai dit, oula, 120 ouais, pasteurs américains. Et donc là, moi, je repense évidemment à l'évangélisme en Amérique latine, hein, qui est évidemment fondamental aussi dans la migration et dans la migration rurale-urbaine. Et au rôle absolument déterminant des Américains dans le développement de différentes églises évangéliques ou d'autres, des Coréens pour implanter d'autres, enfin, dans la construction, en fait, non pas du tout par le bas, mais très fortement impulsée par des groupes de pratiques religieuses qu'on va faire, enfin, voilà, qui vont. Être fortement incité par d'autres, avec y compris un certain nombre de reconnaissance hein, pour les populations qui vont s'engager dans ces populations. Donc voilà, je voulais savoir un peu là ce qu'il en était dans ce cas-là. Et puis, comme j'ai aucune idée, ces chrétiens, ça représente quoi en termes de, je sais pas, de volume, de membres, de groupes. Et est-ce que quelles sont les principales églises évangéliques qui sont représentées parmi la, ou alors est-ce que c'est complètement éparpillé? Voilà, merci beaucoup.
Du coup, une dernière de Marito, puisque c'est en lien, semble-t-il, avec les précédents autour.
Oui, en fait, vous évoquiez que le passage à l'économie, notamment à travers les investissements productifs, était beaucoup plus rare. Et du coup, je me demande dans quelle mesure ces projets afin de d'investissement plus productif ne vont pas constituer en fait, de nouveaux guichets à venir vers lesquels les associations de migrants ou autres acteurs type bureaux d'études, etc., vont s'engouffrer. Notamment parce que c'est un thème récurrent aujourd'hui de la part des bailleurs de fonds, que ce soit l'Union européenne, les États membres, etc., post-sommet Valette 2015. Et je pense notamment au fonds fiduciaire d'urgence où, et du coup, des projets de développement à des fins d'investissement politique, mais qui ont pour finalité d'encourager les retours, qu'ils soient contraints, enfin, qu'ils soient appelés volontaires ou qu'ils soient contraints, ou d'empêcher les gens de partir. Et notamment, c'était un sujet qui est très présent au Sénégal en ce moment, qui est, parce que le Sénégal est en train d'élaborer sa nouvelle politique migratoire. Et du coup, cette question des investissements productifs à des fins de retour ou d'empêcher les gens de partir, c'est quelque chose de très récurrent. Donc, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça ne va pas devenir un sujet plus présent.
Cette fois, on va vous laisser répondre, hein. On va commencer par Thomas.
Oui, j'en ai pas mal. Hein. Alors, donc en fait, bon, là, l'une des premières questions, c'est... je vais commencer plutôt par Virginie, parce que finalement, ça s'inscrit un peu dans des... Tu te réfères au cas américain, enfin, au mexicain. Donc ça, moi, je le connais très bien, ce cas-là, parce que j'ai pas mal travaillé justement avec Portes, puis avec Natasha Iskander aussi... qui a travaillé sur ces exemples-là, Waldinger également. Donc, oui, il y a effectivement un arrière-plan anthropologique, coutumier, très important dans ces actions-là. Effectivement, ça s'inscrit dans une continuation d'obligations collectives. Le migrant, quand il quitte son village, il reste aux yeux des villageois un villageois qui se doit de participer et de continuer à participer à ces obligations collectives. Ceci dit, ça se fait pas tout à fait dans les mêmes modalités au Maroc ou au Mexique. hein, au Mexique, ils doivent retourner, enfin, comme ce que tu disais. Au Maroc, c'est plutôt, ou même en Inde, c'est les villageois qui sollicitent les migrants. Voilà, il y a tel besoin. Est-ce que vous pouvez participer, non pas par votre force de travail, mais par votre argent? Donc ça se fait comme ça. Donc c'est à partir de là que se montent des caisses communes, un système pour transférer l'argent, même soit par des allers-retours de personnes qui font le lien, soit par des comptes en banque, maintenant, par la poste, etc. Donc il y a cet arrière-plan-là. Il y a aussi ce développement de politiques d'accompagnement, de cofinancement, hein, qui est très connu, le programme 3 pour 1 au Mexique. Il y a eu l'équivalent qui s'est monté au Maroc sur la base de cofinancement sur des projets très précis. C'est-à-dire, il y a eu un programme pour l'électrification en 96, un programme pour cofinancer des routes et un autre pour financer des systèmes d'adduction d'eau. Voilà, donc ça s'est fait au milieu des années 90 et ça s'est prolongé jusqu'à assez récemment, ce qui a permis, en particulier pour l'électrification, un très beau succès parce que ça, la quasi-totalité des villages du sud du Maroc sont électrifiés maintenant, en grande partie grâce à ça. Donc il y a ces programmes-là auxquels s'ajoutent les cofinancements du co-développement en France. Il y a des choses un petit peu similaires qui se sont faites en Grande-Bretagne. Par contre, aux États-Unis, ça n'existe pas. Là, il n'y a pas de... Aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent du co-développement. Tout se passe avec par des canaux complètement différents.
C'est-à-dire par des États, c'est ça, en fait.
Oui, voilà.
Et là, c'était des programmes d'État, juste.
Programmes d'État.
C'est l'État qui finance.
Programme d'État.
C'était pas du tout décentralisé.
Pas du tout. Non, c'est pas du tout. Contrairement à ce qui, effectivement, c'est d'autres modalités. Mais ce qui était intéressant, c'est que derrière, enfin, donc l'État devait mettre sur la table une partie de la somme, les migrants et les villageois une autre partie de la somme, hein, comme ça se fait au Mexique. Ce qui était intéressant, c'est qu'une très grande partie de l'argent qui était donné par l'État marocain provenait en fait soit de la Banque mondiale, soit de la France. Donc on voit derrière comment Et donc il y a quand même... on voit bien que c'était des modèles qui ont été pensés en amont, quoi. Hein, tout à fait.
Pour empêcher le départ, il y avait ça.
C'était un discours. Je ne sais pas jusqu'où on peut pousser cette logique-là, parce que effectivement, la question du co-développement, c'est toujours été associé avec l'idée qu'il faut produire du développement. Ça permettra d'empêcher les départs. Ça, c'est dans les discours. Même les organisations de migrants ont été très bonnes pour mettre en avant ce discours. Elles le font encore, notamment en Afrique de l'Ouest. Hein, mais jusqu'à quel point c'est vrai? Parce qu'en pratique, ce qui se passe, c'est que c'est les villageois qui vont solliciter les pouvoirs publics pour monter un projet. Ça ne s'accompagne pas de mesures policières particulières. Enfin, ouais... tout ça, c'est du vœu pieux. Et ensuite, les chercheurs ont depuis assez longtemps montré que le développement était plutôt, au moins à court et à moyen terme, un facteur de migration. Hein, et ça, c'est un discours qui, mine de rien, même si chez certains politiques, on continue à maintenir le contraire, mais chez, en tout cas, les acteurs, les hauts fonctionnaires, ça, c'est une idée qui est passée. Hein. Ils le savent, ils en sont conscients. Mais de toute façon, il y a aussi une prise de conscience du fait que c'est joli, mais ça ne sert que des dynamiques de développement qui sont très localisées. Ça ne va pas affecter fondamentalement le développement à un niveau national. Hein. Donc il y a quand même une certaine... lucidité hein, dans tout ça. Il y a un habillage politique discursif qui est porté par les uns ou par les autres, mais voilà, dans les faits, il n'y a pas. Tout le monde est conscient que ce n'est pas la révolution qui est derrière. Alors ensuite, il y a toute une question sur plusieurs questions sur et les autres, et ceux qui ne sont pas villageois. Alors, effectivement, bon, cette thématique de l'association villageoise, c'est vraiment une thématique clé dans les années 90. Ça ne l'est plus du tout, c'est passé de mode que totalement. Moi, je suis quelqu'un d'assez obstiné, donc je continue à travailler là-dessus. Et l'une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est pas seulement parce que je suis obstiné, mais c'est que je suis convaincu que c'est un cas d'étude qui est certes extrêmement limité par rapport à la réalité du transnationalisme aujourd'hui, mais qui me donne des clés de compréhension de ce qui se passe d'une façon plus générale. Et donc c'est pour ça tout cet effort de théorisation, d'essayer de monter en généralité, c'est aussi pour essayer de trouver des modèles qui sont applicables sur d'autres groupes. Alors, effectivement, maintenant, en particulier au Maroc, mais au Mexique ou dans d'autres pays, l'émigration, elle est plus villageoise. Maintenant, elle est urbaine. Beaucoup d'étudiants, mais pas seulement. Le Maroc et même le Mexique sont dans cette fin de cette période migratoire très intense. Ils sont en train de fermer leur fenêtre démographique. Et les flux migratoires ont profondément changé. Et même le Mexique n'est plus un pays d'émigration très important hein, vers les États-Unis. Hein. C'est quelque chose qui est en train de changer. Et, c'est même en train de devenir un pays d'immigration à l'égard comme le Maroc. Ceci dit, donc je disais, ça me permettait de monter en généralité, de m'intéresser un peu à ce qui se passe. Alors je monte en généralité en abordant cette question des associations villageoises. Je la conceptualise comme des institutions sociales de migrants migratoires. Qui permettent des institutions sociales, qui permettent des relais, des espaces de médiation où se construisent des logiques, des façons de voir les choses, des discours, mais aussi des pratiques au sein des groupes migrants eux-mêmes, mais aussi qui servent de médiation avec la société d'accueil ou la société d'origine. Et ces institutions sociales migratoires, ce ne sont pas seulement les associations villageoises, ce sont les associations d'une façon générale, mais ce sont aussi les familles. J'aborde cette question de la famille comme un espace, un lieu, un nœud où se noue tout un ensemble de choses et de pratiques. Et aussi les entreprises de migrants. Hein, dans certains cas, notamment dans les exemples chinois, sont extrêmement importantes. Hein, ce sont des relais migratoires, des relais transnationaux extrêmement importants. Et donc on peut même aller jusqu'à, bon, ça je ne l'ai pas fait, mais peut-être on peut imaginer à caractériser les formes de transnationalisme en fonction de l'institution sociale dominante, celle qui vraiment est centrale dans la construction de ces logiques transnationales. Hein. Alors on pourrait peut-être imaginer que le transnationalisme chinois est un transnationalisme plutôt entrepreneurial, plutôt associatif côté marocain, plutôt familial côté algérien. Voilà.
Individualiste.
Alors après, ça, ce sont des institutions sociales qui sont bien définies, bien délimitées. Et après, il y a la question de la place de d'autres formes qui sont peut-être plus labiles, peut-être aussi moins institutionnalisées, mais en cours de l'institutionnalisation. Je pense aux églises. Hein, les églises sont des espaces comme ça. Et puis, d'autres formes de réseaux encore plus temporaires, encore plus labiles, fluides, qui se construisent. Mais voilà. Mais quand même, je voudrais... Moi, ce qui m'intéresse dans cette question de l'institution sociale, c'est que ça me permet de sortir de la question pure du réseau. Parce que je pense que le réseau migratoire, il a servi comme concept de boîte noire dans lequel on mettait un peu tout et n'importe quoi. Hein, parce qu'au sein du réseau, c'est très pratique comme outil, mais derrière, il y a des réseaux qui sont extrêmement différents, qui sont très fortement institutionnalisés, d'autres beaucoup plus temporaires. Il y a des liens forts, il y a des liens faibles. Et ça permettait d'effacer toutes ces différences. Alors que dans l'institution sociale, je réintroduis de la nuance et je réintroduis la distinction entre ces différentes formes de pratiques. Voilà.
Sur cette question de réseau, effectivement,
ça sur les générations, excusez-moi, j'ai une question. Sur les générations, très rapidement. Alors, il y a la génération de ceux qui sont en dehors de ces structures villageoises. Donc les étudiants qui construisent, qui s'organisent sur d'autres bases, hein, les associations d'étudiants sont très dynamiques. Voilà. Il y a la question qui est très intéressante des plus jeunes au sein de ces organisations villageoises. Et comment elles s'emparent de ces structures-là. Alors c'est très difficile pour elles, ces générations-là, parce que c'est vraiment, ils se heurtent à un patriarcat et des logiques patriarcales qui sont fortes. Mais on le voit parce qu'ils ont aussi des compétences qui servent à l'ensemble du collectif et que n'ont pas les vieux leaders patriarcaux. Et donc du coup, ils arrivent sur cette base-là à négocier un autre rôle, une visibilité et une place plus importante sur ces nouvelles compétences. Et par exemple, on voit, j'ai vu ça dans quelques organisations kabyles, où les jeunes arrivent à imposer un nouveau mode de prise de décision, où ça s'était fait sur la base du consensus, où en fait c'était le patriarche qui dictait ce qu'il fallait faire comme choix, et eux ils disent, bon, maintenant on va voter à main levée, ou on va voter, pardon, à bulletin secret. On vote à bulletin secret. Ça change tout, parce que du coup, on ne sait plus qui prend la tête, qui vote pourquoi. Et donc, du coup, il n'y a plus l'importance du regard et de la pression sociale. Et du coup, les vieux patriarches n'osent plus prendre de décision parce qu'ils prennent le risque de se faire prendre en défaut. Et ça, ce n'est pas possible pour eux. Et donc, du coup, les jeunes arrivent à prendre le relais. Donc, des petites choses comme ça qui se font. Mais ils ont un autre rapport avec les projets de développement. Ils donnent un autre sens que celui des anciens. Pour les jeunes, ce sont essentiellement, ce que j'ai rencontré, des jeunes qui sont établis, qui ont plutôt un travail, ils ont des jeunes enfants.
En France ou
en Angleterre. Et qui sont là plutôt dans un rapport de transmission à leurs enfants. Voilà. Et donc, du coup, ils montrent le projet de développement pour dire voilà d'où je viens. Voilà qui je suis, de se réapproprier un peu cette trajectoire migratoire de leur famille et de la transmettre à leurs enfants. C'est vraiment dans cette logique-là qu'ils m'ont... Mais par contre, ils le font dans une perspective. Eux, leur avenir, c'est clairement dans le pays d'accueil. Hein. C'est pas dans le pays d'origine.
Mais il y a beaucoup de vieux patriarches, comme tu dis, qui sont d'anciens migrants. En fait, parce que la migration, ça donne aussi... c'est un peu une plus-value quand même dans la légitimité sociale.
Quand ils reviennent.
Du coup, effectivement, ils ont aussi cette connaissance. Et cette connaissance, elle leur a aussi donné une légitimité en
termes de
l'association dans la vallée du fleuve.
Bien sûr, bien voilà, c'est ça. Ouais. Donc très souvent, parmi les leaders des associations villageoises, tu retrouves ces gens-là.
Oui, mais ces gens-là, ouais.
Bien sûr, évidemment. C'est des relais importants. Ça, c'est les retraités. C'est le retraité joue un autre rôle de pan, de pont. Voilà, c'est eux qui vont faire les allers-retours, qui vont voir comment se passe le projet, qui reviennent les rapporter à ceux qui sont... dans le pays d'accueil, voilà. Et on voit tous ces groupes là, ces acteurs. Donc les jeunes ont un rôle, les retraités ont un autre rôle, les riches ont un rôle aussi. Eux, c'est des philanthropes, ils font ça pour affirmer leur statut, ça c'est clair. Donc il y a toutes et ces associations villageoises arrivent à faire parler, connecter ces gens là qui se parlaient pas sinon autour du développement. Voilà. Et donc du coup, j'avais une autre question. Je suis désolé, sur les projets collectifs.
Les projets productifs.
Ah oui, les projets productifs. Alors, le gros truc en ce moment dans les grosses ONG de migrants, européennes, françaises en particulier, c'est essayer de développer ça par le tourisme durable. Là, le tourisme. Donc, en fait, leur truc, c'est de monter des auberges dans les villages. Des auberges qui accueillent les touristes de passage avec un tourisme vert, etc. Et donc, ils essayent de monter ça. Essentiellement au Maroc.
Vous parlez de Marilus, par exemple.
Marilus ?
Oui,
je ne connais pas ça.
Avec tout ce qui est tourisme équitable, développement rural, tout ça. Il y a Zoubir Chatou,
oui, oui, voilà.
L'association, et il travaille.
Ouais. Ouais.
Il a beaucoup
de projets. Mais ça reste compliqué parce que moi j'ai vu des tonnes de projets qui n'ont pas abouti parce que justement c'était de savoir qui allait contrôler l'argent. Je sais qu'il y a une association, la Migration et Développement, ils ont réussi à contourner le truc en faisant gérer la caisse, le budget de l'auberge par la GEMAA, donc l'association patriarcale traditionnelle du village. Mais ça reste, ça a même créé, il y a eu des périmètres irrigués qui ont été montés dans la vallée du fleuve Sénégal, ça a donné à des rixes épouvantables. C'est... Donc ça reste assez compliqué. Et donc moi, je pense que Passer à l'économique, c'est autre chose. Les Mexicains y arrivent pas mal parce qu'ils ont, ils ont quelques coopératives. Mais c'est toujours sur la base de la coopérative, en fait, que ça fonctionne. Donc, coopérative de tequila au Mexique, on a vu ça. Coopérative d'huile d'argan au Maroc. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup parlé de la Kabylie et de l'Algérie. Et pourquoi ça marche pas, tout ça? Ça marche très mal, très très peu. Mais il faut dire qu'on sort de 15 années de guerre civile qui ont complètement déstructuré les paysages associatifs. Et donc, il manque ces relais entre la base, les porteurs de projets et les pouvoirs publics. Quoi, hein. Il n'y a plus ça. C'est vraiment complètement déstructuré. Voilà. Vas-y.
Même si c'est sur un ancrage plus religieux, plus terrain, etc., c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve à partir d'une entrée un petit peu différente. Parce que c'est clair que si on le prend d'un point de vue religieux, la migration, elle bouleverse vraiment les certitudes religieuses. Hein, et elle fait douter, elle fait re-questionner, etc., les modèles. Et autant d'un point de vue associatif que d'un point de vue religieux. Et au Maroc, ce qui est en plus, ce que je dirais par rapport à ce sur quoi j'ai travaillé... en Égypte avant ou en France, etc., c'est qu'il y a un vrai effet miroir. Il y a l'effet miroir de cette société civile, finalement, dont les parents ou eux-mêmes ont vécu la migration et le rejet de leur identité religieuse en Europe. Donc forcément, quand ils voient arriver ces migrants, c'est tout proche. C'est tout proche, c'est des migrations qui s'enchaînent de pays de migration à pays d'immigration, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais c'est aussi des parcours de gens qui se rencontrent. Par exemple, quand j'étais sur des terrains, sur Takadoum, où il y a des migrants qui font des petits boulots de cordonnier, etc., et ben, ils n'ont jamais une journée, les gens, sans qu'on leur amène des plats, ou les mamans marocaines vont leur amener des plats, ou quoi, tout simplement parce qu'elles ont aussi un fils qui est parti, un père qui est parti, etc. Donc le petit jeune qui est là, ça pourrait être notre fils aussi. Donc cet effet miroir, il joue énormément aussi au Maroc, dans l'évolution et aujourd'hui dans la prise en compte de la question migratoire. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de rejet, qu'il n'y a pas de nationalisme, qu'il n'y a pas tout ça. Hein. C'est en train de se créer aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce truc en disant, ben, nous aussi, on a galéré pour faire accepter l'islam en Europe. Et c'est ce que disait Driss El Azami, donc le président, ancien président de Générique, qui est président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, qui disait, et qui est repris donc, dans le culte de la régularisation, en disant, moi, je ne veux pas que les chrétiens prient dehors ou prient dans les caves comme les musulmans chez nous ont prié en Europe. Donc c'est toujours cet effet miroir qui joue du coup ce que tu dis dans la mobilisation effectivement aujourd'hui d'une société civile dont les parents ou dont eux-mêmes ont vécu la migration. Parce qu'il y a aussi une phase importante au Maroc dont on pourrait parler tous les deux aussi qui a été une logique mise en place par le CCME de faire revenir la diaspora marocaine et notamment la diaspora intellectuelle. Donc dans ce mouvement du 20 février 2011, qui est un mouvement qui a marqué aussi la constitution de la société civile et de grandes réformes engagées, qui continuent et qui perdurent encore, ou du moins des graines de réformes qui prennent un petit peu de temps, mais qui sont là, notamment autour des libertés, etc. Dans ce mouvement-là, il y a pas mal de gens qui sont des Marocains, qui sont nés à l'étranger, dont les parents étaient partis. Donc ce qui est assez spécial au Maroc, c'est que cette politique, elle a fonctionné. Il y a pas mal de gens dans les milieux universitaires, dans le journalisme, dans la culture, dans les bibliothèques, les machins, etc., les milieux culturels, scientifiques et même économiques, qui sont des gens qu'on ne peut pas dire qu'ils sont retournés. C'est leurs parents qui étaient partis. Donc c'est cette deuxième génération de mes collègues de l'Université internationale de Rabat qui sont belges, qui sont français, qui sont canadiens. Donc ces gens-là, effectivement... ce sont aussi c'est des gens dont les parents ont vécu la migration et ce qui fait aussi la grosse différence au Maroc finalement aussi je pense par rapport à toute cette répercussion sur la migration et cette mise en place assez rapide d'une politique de régularisation, d'une politique migratoire et d'une acceptation de l'autre et d'une réflexion sur l'autre et d'une réflexion même théologique sur l'autre etc. c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi... qui ont vécu les mouvements associatifs en Europe, qui sont engagés dans une société civile européenne, avant de venir vivre au Maroc et de tenter leur chance, parce qu'on ne sait pas s'ils resteront. Hein. Dans l'ensemble, c'est des gens qui sont arrivés depuis même pas une dizaine d'années, qui venaient au Maroc l'été, en vacances, avec leurs parents, qui venaient pour les fêtes, pour les enterrements, ou les choses comme ça, pour les mariages. Et qui se disent pas autant immigrés que moi, mais pas loin, hein, quand même, avec des codes qu'ils devraient apprendre, et des fois une langue qu'ils devraient apprendre. Donc c'est quand même pas simple.
On l'a vu d'ailleurs au Parlement dernièrement quand la députée, au Parlement, c'est pas une députée, c'est une conseillère ministérielle qui s'est exprimée dans un mauvais darija, qui s'est fait, parce qu'elle avait été formée, parce qu'elle était née ailleurs, en Angleterre ou au Canada. Donc voilà, bon, bref, c'est des choses qui font partie de cet effet miroir que vivent les Marocains aujourd'hui quand ils voient arriver les migrants originaires d'Afrique subsaharienne avec une culture différente et des logiques différentes. C'est pas, du coup, c'est un espace où ce que j'ai travaillé sur les croisements entre migration et religion dans plusieurs espaces, cet espace-là est un petit peu différent quand même au Maroc. Et c'est aussi pour ça que les choses vont peut-être un petit peu plus vite. Sur l'Amérique latine, du coup, moi je suis juste passée par Tijuana pour voir aussi des collègues qui travaillent sur des mêmes problématiques que moi. Effectivement, dans ces logiques de circulation, de l'importance du religieux dans les circulations, de la manière dont on transfère des saints ou des cultes ou des images de saints, etc., dans les pays, dans les pays d'accueil. Et oui, donc de fait, il y a des logiques semblables, les logiques évangéliques, elles sont assez semblables. Et ce qu'il y a au Maroc, c'est que je pense que le christianisme est encore chasse gardée, on va dire, d'une histoire européenne quand même, d'une histoire très française, et que le christianisme, du coup, arrivé par les pasteurs américains, ça ne plaisait ni au gouvernement, mais ni au christianisme local, parce qu'effectivement, c'est un christianisme qui était porté aussi par des églises transnationales, beaucoup plus prosélytes, qui allait amener une autre forme de vivre le religieux, qui n'était pas le projet religieux des chrétiens, ni des chrétiens, ni des musulmans sur place. Donc c'est pas pour rien aussi qu'il y a eu ces expulsions. C'est d'un côté marocain en disant pas de prosélytisme chez nous, on arrête là, on n'est pas dans une théologie conquérante, chrétienne, on laissera pas faire ça chez nous. Et d'un autre côté, je pense aussi que les gardiens de l'institution chrétienne en place européenne ne voulaient pas non plus de ces concurrences-là. Par contre, la concurrence, elle est très forte avec ce qui arrive déjà d'Afrique. Il fallait déjà gérer cette concurrence-là. Hein. Et quand je dis des conversions, alors on est souvent dans des conversions intradénominationnelles, donc c'est interdénominationnel, donc à l'intérieur d'une même famille protestante. Voilà, donc ça c'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler des conversions légères, pour être soft, mais il y a des conversions plus importantes aussi, bien sûr. Alors on est ce qu'on dit les églises de réveil, les églises charismatiques, néo-pentecôtistes, etc. Donc c'est des églises, alors c'est plutôt la vague qui arrive après les années 60 en Afrique, et qui est une vague qui réinterroge les églises évangéliques traditionnelles, mais qui est plus charismatique sur la guérison, sur l'Esprit Saint, sur une manière de diffuser l'Esprit Saint, où on est beaucoup plus finalement dans des trucs assez classiques, l'amour, la joie, l'esprit qui nous porte, etc. Voilà. Donc, en termes de dénomination, elles ont plein de noms différents. Elles ne sont pas toujours liées à des églises des pays d'origine. Il y a beaucoup d'inversions dans la migration aussi, où on va dire qu'on a un lien avec une église d'un pays d'origine, mais on invente sa propre église. Alors, la manne cachée, alors ce qui est rigolo avec la manne cachée, je ne sais plus où elle est, cette église-là, c'est qu'elle a été fondée en migration. C'est toute celle-là où il y a cette série de photos. Hein. Cette série de photos que j'ai fait avec Maline Ejmi, donc un artiste avec qui je travaille, photographe. Et c'est la main cachée. Le fondateur, en fait, qui s'appelle Berger Noël, donc est parti à Paris et a fondé la main cachée. Donc de deuxième migration, d'une première. Il y a une église qui a été fondée en migration et qui devient en banlieue parisienne une deuxième génération d'églises finalement. Qui s'installe comme une église pas historique, elle a été fondée en migration il y a une quinzaine d'années, mais elle devient déjà un modèle quand même, donc auquel on ne va plus faire référence du coup aux églises des pays de départ, mais à une église fondée en migration. Donc il y en a pas mal comme ça, il y a énormément de dénominations. Il y a beaucoup de prophétesses aussi, et de prophètes, et pas seulement des pasteurs. Dans ces églises charismatiques, ils utilisent beaucoup la guérison, ils utilisent les huiles aussi, comme vous voyez là sur cette photo. Ça c'était... C'est une consécration d'un pasteur. Et un pasteur qui est arrivé il y a 17 ans, lui, et qui n'était pas pasteur. Qui a un parcours de migrant, qui a tenté de passer plusieurs fois et qui, petit à petit, s'est installé au Maroc. Et puis en ayant des papiers aussi, finalement, et en s'installant un peu différemment,
voilà, il devient légitime aussi dans son église, et il devient pasteur au bout de 17 ans. Donc on a tous ces renvois, c'est vrai que ça ressemble à des modèles qu'on peut observer entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. C'est un petit peu différent parce qu'il y a du coup moins d'églises transnationales qui agissent sur ces territoires-là. Elles sont moins, de toute façon moins tolérées. Donc on est moins par des églises qui délocalisent leur culte plutôt que par des migrants entrepreneurs religieux qui vont créer leur culte. Alors se référant bien sûr à d'autres églises, mais qui n'arrivent pas ni avec la légitimité de l'église transnationale, ni avec l'argent de l'église transnationale. Ça reste des églises très pauvres. Donc voilà un petit peu sur ces... sur ces questions, on est sur 30 000 à 50 000 personnes chrétiennes. Les origines géographiques, c'est vraiment Centrafrique, Cameroun, Rwanda, beaucoup, et Congo. Congo-Brazzaville, enfin vraiment la grande majorité, c'est le Congo.
La population qu'on voit à la cathédrale de Rabat,
ouais.
C'est archipel.
Ouais.
Avec des chorales, des trucs, j'ai l'impression que c'est d'influence charismatique.
Alors c'est très catholique, du coup.
Oui, d'accord, c'est catholique, mais c'est de. Ils viennent de quelque
part. C'est le même pays. Hein. On va savoir qu'il y a une grosse majorité qui vient quand même des deux Congos, et du Congo-Brazzaville encore plus. Et il y a du Rwanda, Centrafrique, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier quand même beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire. Burkina Faso, très peu, mais il y en a quand même, il y en a un petit peu. Donc toute cette partie de l'Afrique chrétienne aussi, hein, du coup, c'est celle-là qu'on retrouve le plus. Alors à la cathédrale, c'est même hyper intéressant parce que, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand même, ça questionne aussi les anciens, ceux qui étaient toujours dans les églises, hein, et qui vivaient des cultes assez classiques, tranquilles, etc., et qui d'un seul coup vont être confrontés à des cultes plus charismatiques et plus chantants et plus diversifiés. Les chorales, ça a beaucoup pris. Bon, l'évêque est très... Monseigneur Landa, il est très zen par rapport à ça. Hein. Lui, il a laissé faire dans son église, etc. Mais le culte catholique reste le même. Il ne change pas. Voilà, on va dire que la liturgie est la même. Alors que dans l'église protestante, la liturgie, elle va changer, suivant les pasteurs qui vont venir. Et du coup, il y a des protestants de la vieille école des églises historiques qui vont à l'église catholique maintenant. Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans l'église protestante. Donc c'est des combats quand même qui ne sont pas simples à mener. Mais bon, c'est des minorités. Alors à l'église, il y a Pidis, qui est dans les quartiers plutôt, on va dire, français. Il y a plus de diplomates, etc. Mais à l'église, à la cathédrale, on a vraiment... elle déborde de tous les gens qui arrivent des quartiers de migration, mais aussi des diplomates. Enfin, elle est beaucoup plus mélangée. Et c'est vraiment l'Afrique. Enfin,
oui, mais ils viennent de partout, centrale. Ils ne sont pas du quartier. Quoi.
Non.
Les gens du quartier, ils viennent de partout. Il y a un petit office religieux pour
ouais.
Eux.
Oui,
le samedi. Le
samedi à 18h. Il y a un culte qui est plus pour les gens du quartier. Mais les gens du quartier, ils aiment bien aussi venir suivre les cultes.
C'est Ali Ben Sad qui m'avait conseillé d'aller jeter un coup d'œil à Ali
Ben Sad. Quand il était là-bas.
Quand il s'intéressait à le retour du cosmopolitisme par le sud.
Ouais.
Non,
ce qui est impressionnant, c'est la manière dont ça a été brutal quand même. C'est que les gens, ils étaient 10, 20, et que, je dis brutal, mais en une vingtaine d'années, mais en quelques années, là, nous, on en est à une vingtaine d'années, mais à quelques années près, ils se sont retrouvés de 10, 20 dans l'église à plus de 500, voire 1000 à la cathédrale, quoi. Et c'est pareil à Notre-Dame à Casablanca. Donc l'archevêque comment il s'appelle, Daniel Nourissa, lui, et puis c'est des gens qui se passionnent en plus du coup qui sont dynamiques, même l'évêque, parce qu'il s'endormait un petit peu, puis d'un seul coup il va falloir faire face à tout ça, donc du coup ça oblige à trouver des solutions, etc. Et même dans l'église catholique, j'ai réussi à leur faire avouer qu'ils avaient changé des trucs dans leur culte, alors qu'ils n'ont pas le droit normalement. Par exemple, il va sur les histoires de bénédiction, ça se fait beaucoup dans le protestantisme. On va demander, je vais partir par exemple, je vais prendre la route, c'est dangereux, etc. Est-ce que tu peux me bénir mon objet? Donc ils vont voir le pasteur, ils vont bénir la maison, la voiture, tout ce que tu veux. Ça, on bénit beaucoup. Et les prêtres se sont un petit peu adaptés, du coup ils vont bénir, parce qu'on leur demande de bénir, mais alors ils trichent un petit peu. Et ils bénissent les personnes qui portent les objets. Voilà, donc ils sont obligés de réfléchir aussi à des adaptations, parce que sinon, ils ne peuvent pas répondre aussi à la demande. Hein. C'est des logiques assez classiques. Tu as vu aussi.
Et
ouais. Ouais. Donc tu vois ces formes d'adaptation, même
des églises historiques qui se retrouvent.
C'est taureau,
Donc on bénit, mais on bénit la personne qui porte. Donc on ne triche pas, on s'adapte, on va dire, c'est différent. Donc ils nous montrent aussi tout ça. Ils vont se déplacer dans les quartiers de migrants. Même les prêtres, ils ne faisaient pas avant. Ils attendaient que les gens ils viennent à l'église. Maintenant, ils se déplacent aussi, quoi. Bon, ceci dit, ils ont dû se déplacer déjà pour les Marocains. Les Marocains chrétiens, ils ne pouvaient pas venir. Donc déjà, ils avaient pris ces habitudes de déplacement dans les maisons, dans les... Donc il y a tout, voilà. Donc il y a effectivement, c'est des terrains sur lesquels je bosse depuis un moment, mais au Maroc il y a quand même quelque chose de différent, et peut-être aussi différent par rapport à l'Algérie, en tout cas, et par rapport à la Tunisie aussi, parce que là il y a eu vraiment une grosse part, vraiment beaucoup de gens qui sont venus vivre au Maroc, qui font partie de cette société civile dynamique, et du coup qui font écho quand même à toutes ces questions-là, qui savent de quoi ça parle, est-ce qu'ils ont vécu, est-ce que leurs parents ont vécu, qu'ils veulent, ils veulent pas non plus faire vivre les mêmes choses. Voilà, bon, le personnage, j'allais dire principal de tout ça, et c'est Driss El Yazami, c'est le président du Conseil national des droits de l'homme, qui était président du CCME, donc du conseil des Marocains de l'extérieur, et qui est vraiment la personne qui initie aussi cet effet miroir, vraiment parce qu'il avait l'association générique en France. C'est quelqu'un qui était déjà très dynamique et très engagé, qui connaît bien d'ailleurs le christianisme aussi, et du coup qui a fait énormément avancer le dossier migratoire du Maroc, mais aussi le dossier des chrétiens.
Qui est rentré dans le militantisme par les grèves de la faim qui étaient organisées par l'Église catholique dans les années 70.
Ouais, il est en train d'écrire là-dessus d'ailleurs, on en discute sur là-dessus.
C'est
Driss El Yazami. Okay. Charismatique en lui-même aussi, finalement.
Qu'est-ce qui devient ? Parce qu'il était conseiller du roi, à un moment.
Alors, il est président du Conseil national des droits de l'homme. Ouais. On va dire comme ça. Après, il n'est pas conseiller du roi officiellement, mais il a une importance dans les choix qui sont faits, notamment en question migratoire. C'est quelqu'un qui a du poids par son parcours, par les réseaux qu'il a su mobiliser, en Europe et souvent au Maroc, et par ce que j'appelle la génération CCME, ces gens qu'ils ont fait revenir, enfin venir, parce que c'est des enfants de migrants, qu'ils ont fait venir pour développer le Maroc d'aujourd'hui quand même. Donc cette génération CCME, elle est quand même importante dans les milieux intellectuels et culturels, moins dans les questions villageoises et autres, parce que c'est pas les mêmes qui sont revenus, mais dans les milieux intellectuels, culturels, religieux, etc. Enfin voilà, on voit l'influence de cette... Alors le journalisme, les médias, enfin... C'est un petit réseau finalement de... Voilà. Donc il a eu un rôle assez important là-dedans. Il fait vraiment bouger les lignes du Maroc sur ces questions des droits de l'homme, qui vont de la migration, enfin de la liberté de circuler, à la liberté religieuse, en passant par la question des patrimoines aussi, de la mémoire. Il travaille beaucoup sur ces questions-là, notamment avec Mussem aussi.
Il avait participé activement au projet d'une maison d'histoire du Maroc, mais j'ai l'impression que c'est tombé à l'eau.
Non, alors c'est plutôt, ils ont développé d'autres manières de faire patrimoine, en développant des musées un petit peu partout dans le Maroc. D'accord. Donc ils appuient ça, et avec justement le Mussem aussi, avec cette idée qui lui est propre, mais qui était propre à générique, c'est on se réconcilie avec sa mémoire, qu'on peut accepter d'avancer aussi avec les autres, avec la migration, etc. Donc oui, c'est un personnage à lui-même qui fait pas mal, et qui a fait pas mal de petits aussi au Maroc. Donc après, il faudrait voir. On est dans une période où il a une influence, et ce sera peut-être plus pareil après non plus. Voilà. Et il est écouté, effectivement. S'il n'est pas conseiller officiel du roi, il est écouté. C'est comme ça qu'on dit.
Il m'avait dit que le roi avait passé son numéro de portable. Ouais. Alors ça a changé beaucoup par rapport à Hassan II.
Non, c'est sûr que c'est vraiment une phase différente. Quoi. C'est vraiment une phase avec Mohamed VI, qui est quand même, on sent qu'il est très ouvert quand même à pas mal de questions. Bon, ça bouge au Maroc en ce moment, donc je dis ça en marchant sur des œufs, quoi. Parce qu'on va avoir la réponse là, à tout ce qui se passe dans le RIF, on va voir comment le gouvernement réagit. Là, on ne peut pas dire qu'ils soient taxés de très libéral en ce moment. Hein. Ils sont enfermés, toujours enfermés, les gens. Hein. Donc, c'est ce Maroc-là, voilà, qui doit toujours être sur un fil, on le voit bien, hein, mais qui est précurseur de tout ce qui est modéré. Mais dès que ça déborde un petit peu, là, il y a affolement, je ne sais pas si on ne sait pas gérer, quoi. Mais par contre, on fait de l'islam modéré, on fait de la politique migratoire modérée, on fait du modéré. Mais si ça se rebelle, si ça bouge, etc., par contre... Dans la gestion, c'est complexe encore.
Mais c'est un aspect de l'espace transnational qui est important. Il y a énormément de communications qui sont fait sur le plan religieux, des modèles, mais ça m'a frappé. Par exemple, quand il y a eu l'assassinat du prêtre Étienne Gouffray, l'Église de France, elle a tout de suite mis, a modéré énormément les réactions. On a l'impression qu'ils ont été beaucoup influencés par Tibérine. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'Église d'Algérie, influencé par l'Église de France. En tout cas, au moment des attentats, très nettement, l'Église a une attitude d'appel au calme, de modération, etc. Et puis, il y a tout ce phénomène autour de Hooker des masses, de, justement, des aspirateurs, des petits frères de Foucault, de la mission France et tout, qui se sont faits à cheval sur les deux pays, sur les deux régions, de France.
Ce que tu disais, ça, bon, moi j'ai touché à ces problématiques-là quand je travaillais sur les Polonais en Bretagne, où on a les mêmes problématiques d'arriver d'une masse de catholiques, plusieurs centaines de milliers de catholiques qui arrivent dans un pays protestant, qui ont complètement submergé les quelques églises polonaises présentes, et on allait prier dehors tellement elles étaient bondées. Et donc du coup, il y a eu un transfert sur les églises, les temples vides, les églises protestantes qui étaient vidées, elles, et qui ont été occupées par ces nouveaux arrivants. Et tout ça sur fond de en fait, c'est tout ça, et donc en discutant avec les cadres de l'Église polonaise en Grande-Bretagne, tout ça était très bien organisé, très bien encadré, et notamment avec des instructions très précises du Vatican, parce que le Vatican, donc il y a eu une bulle papale qui est sur la question des migrants qui est sortie il y a une dizaine d'années, pour eux c'est un enjeu stratégique énorme. Mais en fait, ce qu'ils ont en tête, c'est pas tellement le Maghreb, mais quoique, voilà, maintenant, sûrement. Mais à l'époque, c'était plutôt les États-Unis, d'ailleurs, parce que c'était l'arrivée de tous les catholiques mexicains aux États-Unis et qui devenaient une force politique énorme, colossale.
C'est énorme pour eux, parce que le protestantisme a pris le devant partout, et que l'Église catholique, elle perdait aussi dans la conscience qu'il fallait qu'elle soit.
Ouais.
Qu'elle garde ses fidèles, en tout cas.
Ouais.
Eh bien, merci pour vos interventions et toutes ces discussions. Merci. C'était la dernière séance du séminaire pour l'année universitaire.
Merci. Qui c'est qui a enlevé une itémine? Pourquoi il y a comme une parterre?
Ah ben oui, il y a le cadre qui est...
C'est quand même la salle dédiée au séminaire Migration, quoi.
Ouais, et puis c'est la salle qui est...
Ben oui, c'est pour ça.
Ça m'a fait une belle